Exactement. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 juillet 2026, 8h00 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez via deux fréquences, 88.8 dans la ville de Bukavu, 91.7 dans les territoires, partout au monde sur Internet en tapant le www.radiomandeleo.com. Org, nous vous remercions pour votre attention soutenue. L'émission Paix Développement, au menu de ce jour, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a levé l'option d'engager le pays dans un processus de dialogue national inclusif. Une feuille de route sera publiée assortie d'une ordonnance qui fixe la forme et les modalités d'organisation de ce dialogue. L'annonce a été faite vendredi au terme d'une réunion entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et les responsables des principales confessions religieuses en RDC, à savoir la SANCO et les CC. Dans la foulée, il a été demandé à l'opposition d'annuler sa manifestation prévue ce 22 juillet pour protester contre le projet de changement de la Constitution. Dialogue national inclusif, comment cela doit s'organiser, sous quel format, pour quelle feuille de route, avec quels participants, tentative de réponse dans l'émission Paix Développement de ce dimanche. La mise en onde est assurée par Jean-Claude Ndagué. Au micro pour la présentation, Expedi Kialou, passez un excellent dimanche en compagnie de Radio Mandeleo et surtout à vous tous, bienvenue. Merci une fois de plus, très chers auditeurs, pour votre attention et surtout pour le rendez-vous pris ce dimanche. C'est donc un rendez-vous de chaque dimanche à partir de 8h00 sur Radio Mandeleo. Nous vous souhaitons donc très bonnes conditions d'écoute partout où vous nous écoutez, dans la ville de Bukavu, à travers les trois communes, dans les autres villes de la province du Sud Kivu. Nous citons la ville de Kamituga, la ville de Baraka, la ville d'Uvira. Vous écoutez Radio Mandeleo, nous vous souhaitons donc un excellent dimanche dans les huit territoires, au Nord Kivu, à Bujumbura, partout au Burundi, à Kigali, en Tanzanie, en Ouganda. Merci donc pour votre écoute soutenue et pour le rendez-vous de ce jour. Nous allons, avant de vous présenter les invités, rappeler quelques faits marquant l'actualité au courant de la semaine. Je le rappelle déjà, en début de semaine, un nouvel incendie a consumé plus de 20 maisons dans la matinée le lundi. En fait, c'était sur avenue Albert Kayaboussis, au quartier Nyalukema, commune d'Ibanda. Alors qu'il n'était que 7 heures, les habitants qui se préparaient pour leurs activités de la journée n'ont pas eu d'autre choix que d'assister à ce drame. Désespoir et désolation sur le message sur le visage de ces familles qui se préparaient à passer leur, disons, leur première nuit à la belle étoile, exposée aux intempéries, loin des luxes de leur maison qui appartiennent déjà au passé, a donc fait savoir un reporter de Radio Mandeleo qui s'était rendu sur place dans la foulée le même lundi avant midi. Et les organisations de la société civile dans la ville de Kamituga exigent des enquêtes sérieuses pour mettre la lumière sur les cas d'assassinat ciblés devenus monnaie courante dans cette partie de la province. C'est ce qu'on pouvait lire dans un mémorandum lui est déposé au terme d'une marche pacifique organisée lundi dernier dans cette troisième ville du sud Kivu. Dans ce mémo, les organisations de la société civile parlent de plus de 13 cas d'assassinat dont le suivi n'a jamais été effectif en ce qui concerne les enquêtes et la justice. Le dernier cas en date est celui de Bonané Boulambo, abattu à bout portant le samedi 4 juillet dernier par un élément identifié comme militaire des forces armées de la RDC au quartier Camp 6 à Kamitugae. Nous le rappelons, le même lundi, un corps sans vie d'une dame d'une trentaine d'années avait été découverte dans la ville de Kamituga. La victime est présumée a été attaquée par certains hommes. Elle est victime d'une agression sexuelle, ont fait savoir les organisations de défense de droits de la femme dans cette partie de la ville de Bukavu qui ont plaidé pour l'intervention de la justice et l'ouverture d'une enquête indépendante afin, bien évidemment, d'éclaircir les circonstances au travers lesquelles la dame en question a perdu la vie dans la ville de Kamituga. Son corps a été découvert dans la matinée. Elle qui revenait justement d'une cérémonie festive qui s'était tenue le dimanche dans la soirée en pleine ville de Kamituga. Et d'un territoire à un autre, plus de 11 cas d'enlèvement ont été signalés dans un espace d'au moins 3 mois dans les groupements de Bugore, Mitié Moudaka, dans la partie nord du territoire de Kabare au sud Kivu. Ceci ressort du monitoring réalisé par les défenseurs des droits humains du territoire de Kabare et dont le résultat a été partagé au cours d'un entretien avec Radio Mandela le lundi. Il ressort que les victimes sont enlevées soit à leur domicile par des inconnus, soit en cours de chemin ou dans leur champ. Souvent, les membres des familles constatent carrément la disparition de leurs proches dans des circonstances inconnues, indiquent des défenseurs de droits humains dans la zone. Signalons que l'insécurité dans cette partie du territoire de Kabare est déjà à la base d'un exode rural de plusieurs familles qui préfèrent vivre ailleurs comme à Bukavu, dans d'autres coins du pays, de la région ou encore dans des centres jugés plus sûrs en ce qui concerne la sécurité. Et c'est depuis plus de 2 semaines que tous les réseaux de télécommunications sont interdits de fournir les services, notamment l'Internet, les appels et la messagerie dans le territoire de Fizi. Cette mesure date du 3 juillet et aurait été prise par les autorités militaires qui la justifient par des raisons bien évidemment sécuritaires. En effet, même tous ceux qui disposent des connexions privées Starlink voient leur kit saisi par les autorités en cas de tentative d'activation de la connexion Internet. Cette situation occasionne déjà plusieurs conséquences dans les chefs des populations qui ne peuvent plus communiquer avec leurs proches, effectuer les transactions via la messagerie financière Airtel Money, Orange Money ou M-Pesa. La société civile Force Vive du territoire de Fizi estime qu'il est temps de rétablir la connexion Internet pour faciliter non seulement la communication, mais aussi le déroulement des activités, bien sûr, dans cette partie du sud de Kivu. Il faut rappeler que c'est depuis l'escalade qui a conduit à la chute de plusieurs villages aux mains de l'AFSAM-23 dans les hauts plateaux des Fizi et Mwenga que cette mesure a été prise, affectant la ville de Baraka et l'ensemble du territoire de Fizi, plus une partie de Mwenga. Un peu de santé dans l'émission de ce jour, la RDC a enregistré au 15 juillet un total de 2124 cas confirmés d'Ebola, dont 828 décès, 390 guérisons et 725 patients en isolement ou en hospitalisation, selon le rapport de situation publié le 16 juillet par le gouvernement à travers l'Institut national de santé publique. L'épidémie continue de toucher 5 provinces du pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu avec des cas guéri à ce stade. La province Sud Kivu enregistre 0 cas positif d'Ebola. Outre le Sud Kivu, il existe d'autres provinces touchées, notamment le Haut-Uele, la Tchopo, où 46 zones de santé sont affectées sur l'ensemble des provinces citées. Le rapport indique que le taux global de létalité s'établit à 39,0%, tandis que le taux de suivi de contact atteint 80,3% après la réactualisation des données consécutives au nettoyage et à l'harmonisation de la base intégrant les informations provenant des zones de santé, de laboratoires et des structures de prise en charge. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec une intensification de la détection active des cas dans plusieurs zones de santé malgré un contexte jugé difficile. Au Nord Kivu, les performances de la riposte restent élevées avec un taux d'investigation des alertes de 93,9% et un taux de suivi des contacts de 91,7%. Voilà, merci beaucoup très chers auditeurs pour cette partie relative au rappel de l'actualité et pour commenter cette dernière information qui revient sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo, bien évidemment, en rapport avec l'épidémie d'Ebola. Nous recevons Augustin Moudé-Kereza Kasenge, qui est analyste sociopolitique, mais également chercheur à Angaza Institute. Augustin Moudé-Kereza, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs, et bonjour à aux amis avec qui on va discuter.
Merci beaucoup, Augustin. Vous avez sorti une analyse qui revient sur les principaux défis dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Vous avez estimé dans votre analyse qu'il existe d'abord plusieurs crises en République démocratique du Congo, au point que la gestion de la crise Ebola pose aujourd'hui problème. À quel niveau vous avez situé les problèmes dans la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup encore une fois, Expedi. Comme on a eu à le dire, nous avons trouvé que l'épidémie, la 17e d'ailleurs, d'Ebola était intervenue dans un contexte de polycrise, c'est-à-dire une série de crises, parce que il est évident que la RDC et surtout spécialement les parties affectées par l'épidémie, notamment les provinces de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, on ajoute déjà Tchopo et les Owele, c'est des provinces qui sont déjà affectées par plusieurs crises, notamment les crises économiques et les crises sécuritaires. Il y a des catastrophes, il y a également l'instabilité politique, ainsi de suite. Et donc, dans l'analyse qu'on avait faite, on a montré que toutes ces crises constituent une sorte d'enchevêtrement. Ça fait que ces crises agissent de manière systémique. Ils s'influencent mutuellement. Et donc, la question d'Ebola, s'il faut adresser Ebola, l'épidémie d'Ebola, il faut avoir une vision beaucoup plus globale. Je m'explique. C'est-à-dire, on note par exemple, au niveau politique, qu'il y a problème d'une coordination unifiée. Étant donné qu'il y a des zones, par exemple, qui sont contrôlées, qui sont affectées, mais contrôlées par le gouvernement de Kinshasa. Il y a d'autres zones qui sont affectées, qui sont sous contrôle de l'autorité de l'AFC M23. Et du coup, ça pose un problème d'une coordination unifiée.
Mmh. Et donc, ça, c'est sur le plan politique et sanitaire.
Oui, politique. Au niveau sanitaire, on avait noté que la crise est intervenue après les retraits ou les sous-dimensionnements de financement des partenaires internationaux. C'est-à-dire, on a vu à un moment donné, il y a l'USAID qui s'est retiré. Et pourtant, c'était un organe, c'était un partenaire de taille au système de santé en République démocratique du Congo. Du coup, l'épidémie intervient lorsque plusieurs structures de santé ne sont pas en mesure de faire face. Plusieurs structures sanitaires continuent à vouloir s'adapter difficilement compte tenu du retrait de plusieurs partenaires. L'USAID a appuyé plusieurs partenaires au niveau du système de santé, mais aujourd'hui qui sont dépourvus de moyens de leur intervention. Il y a aussi la crise économique. L'Est de la RDC est affecté par une crise économique, si bien qu'il y a beaucoup d'infrastructures, que ce soit des infrastructures routières, que ce soit d'autres capacités de production qui ont été affectées. Alors, une population affectée économiquement ne peut pas faire face facilement à une épidémie.
Est-ce que toutes ces crises combinées justifient la difficulté que rencontre la RDC à aujourd'hui maîtriser l'épidémie d'Ebola? Parce qu'on ne cesse de rapporter des nouvelles contaminations aujourd'hui. Nous atteignons pratiquement un total de plus de 2000 cas alors qu'il était annoncé qu'on n'atteindrait pas 2000 cas.
Non, il y a un élément détail qu'on ne doit pas oublier. Il s'agit d'une nouvelle espèce qu'on a d'origine ougandaise, Bundibugyo, qui jusque-là n'a pas de vaccin. Mmh. Ça, c'est un élément détail. Parce que l'expérience en République démocratique du Congo, c'est que la RDC a une expérience dans la riposte. Alors, lorsqu'il s'agit du virus Zaïre, comme on l'appelle. Mais maintenant, aujourd'hui, l'idéal serait qu'on accélère. On accélère au niveau le plus élevé, au niveau des laboratoires pharmaceutiques, pour voir dans quelle mesure mettre en place ne fût-ce qu'un vaccin. Parce que c'est ça le défi, en fait, qui ferait. Voilà. Il y a aussi de possibilités. On doit. Je loue les nous louons effectivement les efforts qui sont en train d'être faits, mais nous encourageons le fait qu'il faille finalement qu'on définisse des stratégies d'engagement communautaire sérieuses qui favorisent la confiance entre en fait les communautés affectées et les équipes de la riposte. Parce que souvent, les protocoles qui sont mis en place, c'est des protocoles qui, à un moment, ne sont pas, qu'est-ce que je vais dire, mais il arrive des fois que les communautés n'y adhèrent pas très vite. Alors, l'idéal serait que l'on soit vraiment très coopératif avec les communautés affectées pour voir maintenant comment, en collaborant, une collaboration de proximité, on peut réussir la riposte.
Et à votre avis, qu'est-ce que justifie qu'aujourd'hui, par exemple au sud Kivu et au nord Kivu, principalement dans les villes de Goma et de Bukavu, on arrive on peut le dire, à un peu bien gérer l'épidémie, parce que bon, tous les cas qui étaient déclarés au sud Kivu, il faut signaler qu'il y a eu un cas de décès et deux guéris. Et à ce stade, il n'existe plus de cas également dans la ville de Goma. Pour vous, cela peut-être justifié à quel facteur?
Je ne sais pas, mais bon, c'est un résultat positif qu'on peut saluer. Mais je ne sais pas trop. Est-ce que les personnes qui étaient affectées n'ont pas pu faire d'autres contacts, ainsi de suite? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas comment, pourquoi, qu'est-ce qui justifie. Ce qui m'intéresse, c'est cette bonne nouvelle qu'il n'y ait plus de cas. Mais j'ai toujours dit que pour autant que d'autres provinces sont affectées, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous devons rester très prudents, étant donné qu'il y a toujours des mouvements. Il y a les mouvements migratoires. Nous quittons, il y a des gens qui quittent le nord Kivu, le sud Kivu, vers Bunia, vers Ouélé, et on doit rester très prudents. Et donc, il s'agit d'une épidémie. On doit savoir qu'au niveau déjà à quelques cas, on déclare l'épidémie au niveau national. C'est-à-dire, quoique c'est l'Ituri, Ouélé ou Tchopo qui soient affectés, nous sommes toujours affectés au niveau de la République démocratique du Congo.
Enfin, comment la coordination peut être menée au niveau régional et sous-régional pour contenir la situation? Parce qu'aujourd'hui, la maladie est déclarée en RDC, certains cas en Ouganda, mais bon, c'est probable qu'on en parle également peut-être au Rwanda, au Burundi et peut-être en Tanzanie. Comment les pays de la région, de la sous-région, peuvent s'organiser pour contenir la situation?
Ah oui, nous avons proposé ce que nous avons appelé la diplomatie sanitaire, c'est-à-dire voir dans quelle mesure les États pourraient aller au-delà, se dépasser des questions de politique qui fâchent actuellement. On sait qu'il y a une sorte de méfiance entre les pays de la sous-région, mais techniquement, il est possible qu'on définisse une dynamique ou qu'on engage une dynamique à même de voir dans quelle mesure on peut mettre en place des dispositifs au niveau de la sous-région qui permettent la gestion de la crise sans affecter l'essentiel. Quand je parle de l'essentiel, par exemple, les mouvements migratoires, vous savez qu'il y a beaucoup de gens pour qui la frontière ne signifie pas seulement un point de passage. La frontière, c'est tout un espace de vie. La frontière, c'est grâce à la frontière, au mouvement aller-retour qu'ils vivent. Et donc, il est possible de voir dans quelle mesure les différents États, les différentes autorités peuvent collaborer pour justement mettre en place des dispositifs, mais aussi permettre à ce que même les gangs petits puissent traverser les frontières, ainsi de suite. C'est possible. Et on avait dit que il est possible que lorsqu'il y a une épidémie, comme nous sommes en train de subir l'épidémie d'Ebola, il est possible que ça devienne un levier de coopération plutôt que de servir de nouveau terrain de rivalité diplomatique entre les États
merci.
De la sous-région.
Merci beaucoup pour votre analyse. Nous allons terminer cette partie en rappelant peut-être un autre fait qui nous est passé de travers au moment du rappel des nouvelles. L'ONU a sanctionné Corneille Nangaa et 5 autres responsables des groupes armés. En effet, le comité de sanctions du Conseil de sécurité établi en vertu de la résolution 1533 a ajouté le 14 juillet 6 individus et 2 entités à sa liste des sanctions concernant la RDC. Figure en tête Corneille Nangaa, chef de l'AFSAM-23, ainsi que John Imani Nzenze, chef du renseignement du AM-23. La liste inclut également des commandants des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, Sébastien Ouimbabazi et Gustave Kubwayo, ce dernier accusé des ciblages des civils et d'exploitation illégale des ressources naturelles, un commandant des ADF ougandaises, Mohamed Lumisa, ainsi que Charles Sematama, chef militaire du groupe Turaneo, actif dans les hauts plateaux du Sud Kivu, principalement dans le Minembwe. L'AFSAM 23 et Turaneo ont par ailleurs été inscrits en tant qu'entité. Ces sanctions, en portant donc gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les armes à l'encontre des personnes et structures visées. Pour commenter cette actualité, nous recevons dans ce studio M. Ignace Mupira, Mamboki, observateur de la scène politique congolaise, député national honoraire et vice-gouverneur honoraire du Sud Kivu. M. Ignace Mupira, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs autour du micro. Je salue également les auditeurs de Paix et Développement.
Nous recevons dans ce studio Mick Mutiki, président du cadre de concertation de l'Hôpital civil du Sud Kivu, expert en gouvernance sécuritaire. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour cher René Ignace et à tous les autres co-débatteurs. Merci aux auditeurs et auditrices de la radio Maendeleo, éparpillés partout au monde parce qu'on nous suit déjà, on sera en ligne par Internet.
Oui, bien évidemment.
Merci beaucoup.
Manuel Bengea, il est de la coalition PEPIS et modérateur du collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix. Manuel, bonjour et bienvenue.
Bonjour cher Expedi Kalou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Maendeleo. Je salue également les collègues dans le studio, les doyens et gouverneurs honoraires de la province du Sud Kivu, les doyens Mick Mutiki et tous les autres co-débatteurs avec qui nous allons développer ce sujet cet avant-midi.
Merci beaucoup. Maître Roland Batirongo, il est chercheur en négociation stratégique et coopération internationale. Maître Roland, bonjour.
Bonjour, cher Expedi. Bonjour à tous les co-débatteurs ici présents. Bonjour également à tous les auditeurs de l'émission Paix et Développement.
Maître Pascal Mouniragi, il est analyste politique indépendant. Maître Pascal, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste Expedi Kalou. Bonjour à tous les co-débatteurs de l'émission Paix et Développement sur Radio Maendeleo.
Monsieur Ignace Mupira Mambo, vous avez entendu, comme nous, vous avez lu également, tout autant comme nous, les sanctions de l'ONU à l'endroit de certains responsables des mouvements armés, des sanctions qui ont affecté également certaines entités, notamment l'AFC M23 et Turaneo. À votre avis, quelles peuvent avoir comme impact ces sanctions prises à l'endroit de certaines entités et personnalités?
De la même manière que nous nous préoccupons du retour de la paix, d'une paix durable, je suis heureux de constater qu'il y en a qui réfléchissent, qui ne s'arrêtent pas au constat, qui ne s'arrêtent pas parfois aux jérémiades, hein, parce que nous nous disons, pendant que nous nous posons un certain nombre de questions, il y en a qui réfléchissent et ils sont heureusement éparpillés à travers le monde et surtout aux Nations Unies et principalement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y en a beaucoup qui ne croient pas depuis l'époque de De Gaulle, à travers l'histoire. Il y en a qui considèrent les Nations Unies comme un machin. Il y en a qui exagèrent en disant qu'il ne sert à rien. Mais les experts des Nations Unies, lorsqu'ils réfléchissent sur les retours de la paix, ils ne se limitent pas seulement au visage des individus. Ils cherchent les causes profondes. Et quand il faut frapper, ils ciblent les protagonistes. Ils ciblent les acteurs. Selon la dimension de la crise et selon l'aspect qu'ils veulent résoudre. Par exemple, d'expérience avec l'expérience de toutes les guerres que nous avons connues ici, notamment celle, la guerre du RCD, cette guerre avait, comme celle d'aujourd'hui également, une dimension économique. Et les ressources faramineuses dont nous disposons ici au Congo nous apportent des convoitises et des guerres. À l'époque, pour mettre fin à la guerre, entre autres, ceux qui savent à quoi sert le coltan, à quoi sert le diamant, à quoi sert toutes sortes de... Aujourd'hui, on parle de minéraux critiques. Il y a 10 ans, on les appelait autrement. Aujourd'hui, minéraux critiques. Et c'est eux qui fixent les prix. À l'époque, ils avaient simplement baissé sensiblement le prix de coltan. Et tous ceux qui venaient ici faire la guerre pour prendre le coltan ont abandonné le coltan et la guerre s'est arrêtée. Il y a des aspects politiques. Il y a les acteurs majeurs, ceux justement qu'on frappe à travers ces sanctions. C'est pour les décourager, les obliger, leur faire comprendre qu'il faut arrêter et suivre la voie tracée par les Nations Unies, la voie de la résolution de cette crise des Grands Lacs. Ce sont des sanctions ciblées. Ce sont des sanctions ciblées. Et les individus sanctionnés, on les cible pas au hasard. Et eux-mêmes, les personnes qui les sanctionnent, identifient, ils savent le rôle qu'ils jouent effectivement. Et il les frappe. J'entends souvent les gens dire, vous allez demander à X, vous allez geler les avoirs de tel acteur, alors que les gens ont l'habitude de prendre l'argent, de le cacher sous le matelas, ou de creuser un trou, de cacher l'argent là. Non, ça porte toujours, ne fût-ce que, il suffit que votre nom circule à travers le monde. Allez seulement au Rwanda ici. Si vous voulez aller à Dubaï, en Chine, en Europe, voilà. Nous de Bukavu, nous n'avons pas deux pistes. Nous n'avons que le Rwanda. Et lorsque vous arrivez à la frontière, et quand on vous demande de vous identifier, il suffit que quelqu'un regarde attentivement son ordinateur et vous regarde sous le visage, vous allez dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça signifie que ça vous fait absolument peur. Et même quand on dit... Moi, je ne vais jamais en Europe, même si on m'empêche de voyager, qu'est-ce que ça va me faire? Donc, ces sanctions-là ont leur portée. Et ces sanctions-là portent et sont nécessaires. Bien entendu, lorsque la paix revient, généralement, on lève les sanctions. Ce n'est pas la première fois. Hein, nous avons des listes de gens qui ont été sanctionnés dans ce pays parce que pour tentative de révision de la Constitution vers les années 2014, 2015, 2016, la liste, les Lambert Mende, les Bochab, etc., etc. Lorsque la paix est venue, lorsqu'en 2018, 2019, 2020, on a organisé les élections, on a levé les sanctions parce que les raisons pour lesquelles on les sanctionnait ne valaient plus. Peut-être que demain, on pourrait lever les sanctions, disons, qui frappent les personnes qui sont ciblées aujourd'hui, si ces personnes comprennent qu'ils doivent déposer les armes, qu'ils doivent arrêter les exactions, parce qu'on ne sanctionne pas au hasard. Vous avez cité les raisons pour lesquelles on sanctionne chacune de ces personnes-là. Hein, il y a des gens d'FDLR, vous avez cité les personnes... Les ADF, etc., les personnalités de l'FSM23, et peut-être prochainement ceux qui pourront tenter de résister face au retour de la paix, même du côté du gouvernement. On a déjà vu ça dans ce pays. Peut-être qu'il y en a qui méritent également quelques sanctions de ce côté-là.
Merci beaucoup. Mick, qu'est-ce que vous pensez que ces sanctions seront, au vu du contexte actuel, le contexte de la crise, ces sanctions, notamment la crise dans la partie Est, la crise de l'AFSAM 23 et le gouvernement de la République, ces sanctions seront dissuasives ou elles sont peut-être de nature à révolter davantage les acteurs impliqués ou à durcir l'attitude des acteurs impliqués concernés par les sanctions directement?
Il y a ce qu'on appelle dans le mécanisme de maintien de la paix et de recherche de la paix au niveau international. Le régime des sanctions intervient, c'est la seule mesure coercitive non violente, comme on peut le dire, en dehors de ce qu'on appelle les interventions, notamment en termes de force de maintien de la paix ou en force de coercition, force d'imposition de la paix. Alors, vous avez cette partie. Moi, je pense que c'est une façon de mettre une pression aux parties belligérantes afin qu'ils acceptent le schéma des négociations. Comme vous le savez, la RDC fait partie des 15 pays membres du Conseil de sécurité actuellement. Et la résolution 28-25, moi-même je me demandais, quand il est sorti, la récente résolution qui a reconduit les régimes, on appelle ça les régimes d'embargo, mais en réalité, j'avais déjà expliqué, c'est un régime de notification par rapport aux armes. Et la RDC est revenue en charge pour dire comment vous pouvez nous sanctionner, nous, pour ne pas accéder aux armes, alors que l'autre partie, la partie rebelle, elle n'a pas été sanctionnée. Et il y a une sorte d'équilibrisme diplomatique à partir de ces sanctions qui a permis à ce que aussi les FDLR soient touchés, mais aussi les ADF Nalu. Les Nations Unies ont toujours surfé sur ces dimensions d'équilibrisme, mais je ne vois pas en quoi, aussi longtemps qu'il n'y aura pas ni force de coercition, ni force de maintien de la paix, donc une force d'imposition ou de maintien de la paix, sur le terrain, les cartes, comment je veux dire, le voie d'approvisionnement et du côté gouvernement, parce que le gouvernement aussi n'oublie pas qu'il n'a pas le droit d'acheter des armes, hein, comme il le veut, mais il les achète. Et d'ici aussi, du côté rebelle, je vois qu'on en est aussi à cette étape-là, de les mettre sous embargo de manière à ne pas leur permettre d'accéder aux armes. Mais tout le monde sait bien que le voie d'approvisionnement des armes, la voie de circulation des minéraux, c'est les illicites sont peut-être à 80% et les licites sont à 20%, mais ça donne quand même, comme l'a dit l'aîné Moupira, une dimension de coercition, une dimension de dissuasion, de telle manière à amener les protagonistes au langage, aux éléments de langage de la paix. Et c'est ce qui est important dans cette résolution.
Voilà, Maître Roland, le citoyen lambda s'interroge en rappelant, par exemple, que les sanctions ont été prises avant, par exemple, des sanctions du Trésor américain contre certaines personnalités, y compris l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Certaines sanctions ont été orientées à des officiers de l'armée rwandaise. Des sanctions ont été prises dans le passé, mais la situation est restée ou est demeurée la même sur le terrain. Est-ce que cette fois, cette série des sanctions prises par une autre unité, à savoir par exemple l'ONU peuvent avoir un impact sur la situation sur le terrain.
Merci beaucoup, Expedi. Moi, je me dis tout simplement que c'est la même chanson. Parce que, tout d'abord, s'il faut même rentrer dans la Charte des Nations Unies, en son article 24, les États donnent les pouvoirs au Conseil de sécurité des Nations Unies d'agir en leur nom. Au-delà de cela, partant de l'article 42 de la même charte des Nations Unies, on nous montre que si les mesures pacifiques ne marchent pas, le Conseil de sécurité peut prendre d'autres mesures, même recourir aux forces armées, en fait, n'est-ce pas, de maintenir la paix.
D'imposer
la paix, voilà. Moi, mais je me dis que c'est trop peu de prendre juste des sanctions, parce que le Conseil de sécurité a le pouvoir, n'est-ce pas, de faire, a le pouvoir d'empêcher de faire, a également le pouvoir de faire faire. Mais là, je me dis tout simplement, lorsqu'on donne juste des sanctions, et puis les sanctions...
Mais il existe déjà une résolution qui a donné mandat à la MONUSCO de vérifier les cessez-le-feu, et nous avons appris au courant de la semaine que des officiers des forces armées de la RDC sont arrivés à Goma, trois officiers sont arrivés à Goma, aux côtés de l'AFC, dans un mécanisme de vérification avec la MONUSCO. Ils pourraient bien évidemment se déplacer pour Ouvira, pour le sud de la province, pour vérifier la mise en œuvre de ces cessez-le-feu, quoi.
Oui, la mise en œuvre, oui, mais même lorsque nous analysons les accords, rien sur le terrain n'est d'application. Parce que s'il faut parler du cessez-le-feu, c'est depuis quand on a signé l'accord. Et aujourd'hui, on revient pour juste voir les mesures d'application, si c'est appliqué sur le terrain.
Donc pour vous, ça ne sera pas dissuasif.
En tout cas, pour moi, ce n'est pas dissuasif, parce que je ne sais pas que c'est la même chanson, et je ne suis pas du tout convaincu que cette fois-ci, ça sera, n'est-ce pas, le contraire de ce que nous vivons tous les jours.
Merci beaucoup. Maître Pascal, qu'attendez-vous après, bien évidemment, cette série des sanctions à l'endroit de certains acteurs?
Ben, je salue encore, merci monsieur le journaliste, je salue encore les auditeurs de la radio Mandeléo. Je voudrais ici dire simplement que ces sanctions qui ont été prises par les conseils de sécurité des Nations Unies ne sont qu'une lettre morte. C'est un coup d'épée dans l'eau, comme le disent les Français. Pourquoi? Parce que ces mêmes conseils de sécurité des Nations Unies, qui a une obligation internationale au regard du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale. Eh bien, lorsqu'il ne s'est pas imposé son impérium, donc face à une fraction rebelle, à un mouvement insurrectionnel, ou à un État agresseur de notre État, eh bien, que voulez-vous qu'on dise? Ils ont failli à leur mission. Et donc, c'est tout ce qu'ils disent et tout ce qui se vit sur terrain, ben, c'est vraiment la nuit, les jours et la nuit. Et donc il faut dire que la Charte des Nations Unies, dans les cas d'espèce, c'est un outil, un instrument juridique de grande envergure. C'est une pierre angulaire sur laquelle se fondent tous les grands principes qui doivent régir les Nations Unies. En l'occurrence, si vous prenez l'article de la Charte des Nations Unies, il est énuméré une série donc de principes. Au nombre de ces principes, on interdit à l'article D et paragraphe 4 le principe de non-recours à la force. C'est-à-dire qu'aucun État, aucune fraction, ne peut s'employer à faire usage de la force sans pouvoir, premièrement, pour résoudre un problème, sans pouvoir recourir d'abord au mécanisme de paix. Et le même principe aussi, la même charte aussi érige le principe des règlements pacifiques des différends. Donc les Nations Unies ont, somme toute, tout un pouvoir. Ils ont l'impérium, tel que les confrères l'ont dit, ils ont beaucoup de mécanismes à travers la Charte des Nations Unies et à travers aussi les conseils de sécurité, donc qui peuvent prendre des résolutions pour imposer la paix. Et d'ailleurs, la même charte aussi, comme les confrères, a le pouvoir de faire faire. Et donc, lorsqu'il en va que la charte des Nations, donc les Nations Unies ont constaté que donc la paix est menacée, ils ont d'abord le mécanisme de règlement pacifique. Et lorsqu'ils se rendent compte que ces mécanismes-là ne sont pas respectés, ils peuvent aussi recourir à la sécurité collective pour imposer la paix dans une sous-région, dans une région. Et voilà, parce que c'est la mission, somme toute, dévolue, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous lisez les chapitres de la Charte des Nations Unies, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout ça. Mais, fort malheureusement, ce n'est qu'une lettre morte, parce que ni les États partis, ni les États qui ne sont pas partis, mais qui quand même doivent observer un certain comportement pour éviter tout fait illicite. Parce qu'un État peut engager sa responsabilité pour même un mouvement insurrectionnel pour fait internationalement illicite. Mais ce qu'on voit dans la sous-région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo est depuis plusieurs décennies victime des faits d'agression, des crimes les plus graves qui sont, repris dans le statut des Roms, spécialement aux articles 5, 6, 7, 8, donc les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes, d'agression, et qu'en sais-je encore, mais c'est tout le temps qu'il y a violation de tous ces outils instruments juridiques, c'est tout le temps qu'il y a violation des droits de l'homme dans l'ensemble. Si vous essayez un peu de voir combien de victimes de guerre il y a déjà depuis que toutes ces crises ont débuté. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Qu'est-ce qui s'en est suivi par rapport à tout ça?
Je vous ai bien compris, donc oui. Vous avez dit que l'ONU a un plein pouvoir de rétablir la paix. Malheureusement, l'ONU recourt à d'autres mécanismes qui ne sont pas de nature à ramener la paix. Merci beaucoup. Emmanuel Benguer, également votre point de vue par rapport à ces sanctions.
Merci beaucoup, cher journaliste. Je ne vais pas analyser comme les juristes l'ont fait, mais je pense à mon avis que ces sanctions renforcent directement une pression sur les dirigeants de l'F-523. Au moment où le processus de Washington, Doha, cherche, n'est-ce pas, à consolider la paix et à régler même les enjeux politiques, mais les sanctions tombent. Donc, en tant qu'acteur social, ça peut nous laisser déjà dans les doutes. Parce qu'on ne peut pas négliger cet aspect.
Ça veut dire que la pression...
C'est déjà une pression sur les dirigeants de l'F-523. Et c'est déjà compliqué dans une période où ce processus cherche à consolider la paix. Mm-hmm. Et sur le plan militaire, attention, nous ne pouvons pas négliger ça. Parce que c'est déjà aussi un problème... Parce que les dirigeants de l'AF-523 sont déjà limités aux déplacements internationaux. Et ils seront également coupés des contacts avec ceux qui les dotent ou aux endroits où ils achèteraient les armes pour faire la guerre. Et donc c'est un aspect que nous ne pouvons pas négliger. Et là je l'ai dit, si ces sanctions seraient effectivement appliqué. C'est à ce niveau où ça peut toucher. Mais comme ça constitue une pression, et nous pensons et que ça va aussi renforcer tout ce qui se propose au niveau régional et international sur le retour de la paix dans notre pays. Merci. Et donc moi je crois que c'est déjà un aspect très, très compliqué qui peut également motiver le retour des atrocités. Parce que si je sais déjà que je suis sanctionné et qu'à tout moment on peut me ramasser, je serai déjà dans l'obligation d'activer. Et je crois, comme les juristes l'ont dit, ça serait plutôt des sanctions dans lesquelles il fallait mettre quand même un suivi, les amener à respecter tout ce que nous avons déjà comme accord autour de la paix, qui est de rester dans les sanctions pendant qu'il y a déjà des processus. Merci. C'est là beaucoup. Où il y a des contradictions. Nous sommes dans ces processus. Après, aujourd'hui, on tombe dans l'autre sanction. Et donc, ça serait une voie de décourager les mécanismes en cours. C'est pourquoi on pense qu'il serait très important que les Nations Unies puissent déjà mettre la pression sur tous les belligérants, que ce soit du côté gouvernement ou la FC23, pour que la guerre qui nous imposait aujourd'hui, nous les peuples congolais, s'arrête.
Merci beaucoup. Mick, vous insistez pour 30 secondes 30 supplémentaires. Secondes.
Bon, je nous ai vu, nous tous, nous étions trop moralisateurs. Ouais. C'était, on a donné des discours moralisateurs. Dans ces choses-là, la morale, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a les Nations Unies, ce sont les intérêts des nations qui s'y jouent et les influences de nations. Il faut partir aussi sur cet aspect-là. C'est pas une question de textes, de vieux textes de 1948. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour la réforme des Nations Unies parce que il y a des forces, par exemple, de multinationaux. Il y a même les États-Unis qui ont sorti dans certains organismes des Nations Unies parce qu'ils estiment que les Nations Unies n'ont plus suffisamment d'influence. Ça veut dire, moi, je nous dis de calmer nos ardeurs. Ce n'est pas aussi moralement que ça se passe, ces histoires. Il y a des enjeux, il y a des intérêts des individus, des multinationaux, des États qui entrent en jeu et qui influencent un certain nombre de choses là-bas.
Merci.
Et qui font en sorte que ces gens, il faut pas trop moraliser ces débats. Donc restons les pieds sur terre, comprenons qu'on a pris des sanctions, mais allons à l'essentiel. Je pense que le deuxième sujet, c'est l'essentiel par rapport à ce qu'on doit dire.
Qu'est-ce que vous dites par là, donc? Qu'est-ce que vous dites à travers cela? Vous demandez aux Nations Unies, ou disons aux autres acteurs, de comprendre que les sanctions qui ont été adoptées valaient la peine d'être prises plutôt que de recourir à d'autres mécanismes qui ont été proposés par les autres intervenants dans ce studio.
Non, moi-même, ma première intervention était très morale, en disant, recourant au texte, mais je voudrais juste élever les débats parce qu'il
y a les enjeux sont très grands,
au-delà de ce que nous voyons. Les enjeux sont très complexes, c'est pas aussi comme ça qu'on les dit que ça se passe au niveau des Nations Unies. Il y a des influences qui rentrent en jeu et ces influences-là amènent parfois les Nations Unies à jouer au jeu d'équilibriste. Je vous ai dit que la résolution précédente, 28-20...
Qui revient 28, sur l'embargo 25, sur l'achat des armes.
Oui. Vous pouvez vous imaginer que la RDC est membre du Conseil de sécurité, mais on lui sort une résolution qui lui empêche d'acheter les armes. Ça veut dire que la RDC, les intérêts des grands ont pesé sur lui. Il faut dire ça clairement.
Merci.
Il y a aussi l'élément que cette résolution, à mon sens, est venue replacer l'ancien président, l'ancienne résolution 25-28, est venue replacer l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, au centre du débat. Parce qu'on dit, il a la possibilité, ce qu'il disait, il a la possibilité de faire, il a la possibilité
d'empêcher de faire.
C'est comme ça qu'on les décrit dans cette
Merci
résolution.
Beaucoup.
Donc allons dans ces choses avec suffisamment de, je m'excuse le terme, avec suffisamment de couilles. Hein, il ne faut pas y aller trop avec des couilles molles en pensant que ça se passe comme ça se passe à l'église. Ne soyons pas trop livresques. Il y a beaucoup de complexité dans ces
Merci
choses.
Beaucoup.
Et le deuxième sujet nous introduira effectivement dans la
Merci
dimension
beaucoup.
Des complexités.
Ignace, vous avez également un élément additionnel.
Je voulais rassurer Mick que, oui, il a dit des trucs mous. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit ici. Non. Quand notre ami Augustin a parlé des aspects de lutte contre Ebola, il a parlé de méthodes holistiques. Hein. C'est une démarche plurielle. C'est comme dans une salle d'opération. Le médecin a déjà identifié le mal, il veut l'extirper, mais il a des bistouris. Il ne suffit pas d'ouvrir et d'enlever l'appendicite ou je ne sais pas moi. Il faut qu'il y ait également quelqu'un qui surveille la tension, quelqu'un qui surveille la circulation des sangs, quelqu'un qui surveille les battements cardiaques, quelqu'un qui surveille. Donc, nous sommes dans un lit,
tout un système.
Il y a un anesthésiste, est-ce qu'il en a mis trop ou trop peu? Et donc, ceux qui sont au chevet du Congo, non seulement nous leur compliquons la tâche parfois nous-mêmes, mais ils sont en face de, d'un malade qui souffre de beaucoup de maux ou qui a besoin de soins avec beaucoup d'attention sur plusieurs aspects. Nous avons souvent dit que la crise ici a des dimensions politiques internes, même si nous allons aborder la question, même si parfois avec beaucoup de légèreté, certaines personnes disent, est-ce qu'il suffit que 2, 3, 4 personnes se réunissent à Kinshasa pour que la guerre s'arrête à l'Est? C'est trop léger comme analyse. Il y a une dimension de politique interne qui doit être traitée. Il y a une dimension de politique régionale. Ce que vous appelez, nous appelons depuis de longues années, il y en a qui pensent qu'on n'a jamais dit qu'il y a une guerre d'agression ici, qui ont découvert cette expression aujourd'hui, mais ça fait des décennies qu'on dénonce la présence de troupes étrangères ici. On peut vous sortir des archives, vous verrez que depuis déjà 90, on était en train de dénoncer la présence de troupes étrangères ici. Donc, il y a la dimension régionale, il y a la dimension internationale. Le coltan, je rappelle souvent quelque chose ici, de passage au Parlement britannique, quand j'étais encore député, on était dans le plaidoyer là-bas, j'ai trouvé Madame Eva Braun, qui était présidente de la commission, d'une commission permanente, vous êtes des juristes, d'une commission permanente à la Chambre des représentants, Common House, du Parlement britannique. La commission permanente est dénommée Commission Grand Lac et Prévention du Génocide, au sein du Parlement britannique. Et donc, pour les Britanniques, d'hier et d'aujourd'hui, la question des Grands Lacs et du génocide est une préoccupation première. Et vous pouvez déployer tous les discours, agressions, etc. Il suffit que quelqu'un dise non, il y a encore des génocidaires au Congo, pour que cette commission-là se réveille et dise non, il faut protéger ces gens, on risque de vivre un autre génocide.
D'où la complexité,
la méthode plurielle qu'utilisent les Nations Unies, et c'est par gradation. Il ne faut pas négliger, ils y vont trop lentement pour certains. Mais moi j'ai souvent dit que c'est pour une malaria, hein. La malaria arrive un lundi, mais pour qu'elle guérisse, il faut terminer la cure, ouais, qui est peut-être de 21 comprimés. Mmh. Si vous êtes au troisième comprimé, vous dites « Mbona yi dawa yi fanye kitu ». Non, attendez le cinquième, le sixième, le septième. Eux, ils vont par gradation. Nous sommes pressés et c'est normal parce que c'est nous qui souffrons. Ouais. C'est nous qui... Les banques sont fermées, les gens disent « Il n'y a pas de banque ici ». Moi, je ne sais pas si à Gaza, il y a des banques. Je ne sais pas si aujourd'hui, là on bombarde en Ukraine, il y a des coins où il y a toujours des banques. Nous sommes en guerre, les gens ignorent que nous sommes dans une situation de guerre, c'est-à-dire de non-droit.
Merci beaucoup.
De non-État.
Merci infiniment pour cet ajout et pour clore, face aux sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies, Corné Nangam, qui est coordonnateur de l'AFSAM 23, affirme que le mouvement mène une lutte existentielle et assure que son mouvement poursuivra les combats jusqu'à la fin. Je cite, il s'agit des sanctions politiques. Telle a été la déclaration de Corné Nangam. Les Américains nous ont sanctionnés, les Européens également, ainsi que les Nations Unies. Nous avons été condamnés à mort. Ce qui nous reste, c'est de nous battre pour exister. C'est pourquoi notre lutte est existentielle. Nous allons nous battre jusqu'à la fin, a déclaré Corneille Nangam, coordonnateur de l'AFCAM 23. Jean-Claude Ndagué, nous observons une pause et juste après nous reviendrons pour ouvrir le chapitre débat de l'émission de ce jour. Okay.
Exactement 8h54 minutes à Bukavu, le président Félix Tshisekedi relance l'idée d'un dialogue national inclusif. L'annonce a été faite vendredi à Kinshasa à l'issue d'une rencontre entre le chef de l'État et les représentants des principales confessions religieuses du pays réunis à la cité de l'Union africaine. Au nom de la délégation, le cardinal Fridolin Ambongo de l'Église catholique a salué une initiative destinée, selon lui, à renforcer la cohésion nationale et à permettre aux Congolais de se parler dans un contexte marqué par la persistance de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le prélat a indiqué que les modalités de ce dialogue seront précisées progressivement. Il a appelé l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à s'engager dans cette dynamique afin de privilégier l'unité nationale face aux défis que traverse la République démocratique du Congo. Le cardinal Ambongo a également remercié le président Evariste Ndayishimiye du Burundi, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo pour leurs efforts diplomatiques ayant favorisé cette évolution. Selon des sources ecclésiastiques, une feuille de route devrait être publiée dans les prochains jours afin de définir les contours de ce dialogue national qui se veut inclusif. Je vous propose donc de suivre le cardinal Fridolin Ambongo au sortir de cette rencontre avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi.
Nous sortons d'un entretien très très important avec le président de la République. Lui-même avait déjà pris en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion, pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'est du Rwanda, nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement, aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que, après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous. Ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays.
Voilà, vous venez de suivre le cardinal Fridolin Bongo sortir de cette rencontre avec le président de la RDC dans la foulée. Mbongo a invité à l'évêché de Kinshasa les principales figures de l'opposition congolaise réunies au sein de la coalition C64 hier samedi, leur demandant d'annuler la marche prévue le 22 juillet prochain à Kinshasa. Aussitôt après cette rencontre, les opposants se sont réunis au parti politique ACH de Jean-Marc Kabunda Kabunda. Malheureusement, ils ne se sont pas prononcés au terme de cette rencontre. Certaines sources dans le camp de l'opposition évoquent une stratégie voulant voir d'abord cette main tendue du président de la République. Donc ils attendent d'abord la publication de l'ordonnance qui va fixer les modalités de l'organisation de ce dialogue avant de se prononcer sur l'organisation ou pas de la marche du 22 juillet prochain dans la capitale Kinshasa. Augustin Moudekereza, analyste sociopolitique, à votre avis, pourquoi cette initiative est annoncée seulement aujourd'hui et pas hier?
Ah, merci encore, Expedi. Non, les conflits, c'est un phénomène qui suit tout un processus, et notamment un processus de maturation. Si bien qu'il arrive qu'on parle de la maturité du conflit. Et la maturité du conflit, c'est le moment où les protagonistes arrivent à se rendre compte que les bénéfices de la confrontation deviennent inférieurs par rapport au coût humain, au coût politique, militaire qu'ils engagent ou qu'ils enregistrent. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où possiblement la crise que nous sommes en train de traverser est déjà à un stade de maturité. C'est un stade qui impose toute partie prenante au conflit à pouvoir dire « Ok, je trouve que j'ai fourni tous les efforts au niveau militaire, je n'ai pas trouvé les résultats escomptés. » Et à ce moment-là, il aperçoit le dialogue ou la négociation comme une alternative. Et c'est à ce niveau-là. Et donc, dire « Pourquoi pas hier ?» ça veut dire que entre hier et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, à mon avis, et qui participent maintenant à cette prise de décision. Et je ne crois pas que l'on dise est-ce que c'est tard, est-ce que ça s'est fait tard, avec beaucoup de retard, est-ce que c'est trop tôt. Je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Je m'en tiens seulement à voir que il s'agit. L'appel au dialogue, je l'inscris dans une logique d'une évolution de la stratégie de la résolution de cette crise.
Merci beaucoup, Maître Roland. Pour vous, y a-t-il eu des influences extérieures qui ont peut-être poussé le président de la République aujourd'hui à accepter la main tendue des prélats catholiques et de l'ECC? Parce que nous le rappelons qu'à maintes reprises, cette proposition lui a été réservée, mais visiblement, pour le président de la RDC, l'organisation du dialogue ne devait pas passer par le tandem SCC-5O. Mais subitement, on s'y attendait le mois. Vendredi, nous apprenons que le président a reçu
ce tandem. Et bon, l'information a sorti de cette rencontre, c'était l'idée de l'organisation d'un dialogue national et inclusif.
Merci bien, Expedi, encore une fois. Et je salue encore une fois la quintessence de cette thématique. C'est comme un cheveu qui tombe dans la soupe. En tout cas, c'est de façon cavalière que nous avons tous appris par les réseaux sociaux, les médias, que le président de la République a en fait accepté les dialogues. Je sais que dans les négociations ou dans la recherche de la paix, surtout avec les négociations de Doha, de Washington, notre président, pour lui, avait choisi la voie diplomatique. Pourtant, dans les négociations, il y a ce qu'on appelle les BATNA. Les BATNA, c'est en anglais, ça signifie tout simplement the best alternative to negotiate agreement, c'est-à-dire la meilleure, les plans B. C'est le plan B lorsqu'on s'est dit si la voie diplomatique, je ne trouvais pas la solution, comment je vais faire pour en fait trouver la solution pour le retour de la paix dans le pays. Mais malheureusement, notre gouvernement aurait dû commencer par les dialogues pour en fait prendre comme BATNA, n'est-ce pas, la voie diplomatique. Mais ils ont commencé par la voie diplomatique et aujourd'hui nous apprenons qu'ils ont cette fois accepté de faire les dialogues. Il y a toute une ribambelle de questions à se poser à ce sujet. Parce que, si nous regardons bien, ceci intervient après que l'Assemblée nationale ait déjà adopté la loi sur le référendum, le Sénat a adopté, nous avons suivi la Cour constitutionnelle aussi, qui examinait la conformité de cette loi à la Constitution, qui a aussi validé. Et puis je me pose la question, est-ce que notre président Tshisekedi sera flexible ou sera capable de concéder? Parce que aller dans les dialogues, je sais qu'il ne manquera pas la question de le poser, est-ce que vous êtes prêt à abandonner le chemin du changement de la Constitution? Est-ce qu'il sera prêt à concéder d'abord cela? Des deux, est-ce que cette fois, parce que pour ceux qui ont pris les armes, n'est-ce pas, pour battre les intérêts, et je cite la FCM23, ils disent qu'il y a des engagements que le président n'a pas respectés. Malheureusement, les engagements que nous ignorons jusqu'ici, parce que je n'ai jamais suivi de part et d'autre, dire il s'agit de quel engagement. Bon, on peut se dire que peut-être ce sont des engagements de gouvernance. Est-ce qu'il est aujourd'hui prêt à concéder, à accepter de respecter leurs engagements? Parce que il faut y aller tête haute, il faut y aller aussi de bonne foi dans les dialogues. Que ça ne soit pas encore des dilatoires qu'on va nous amener pour enfin nous laisser dans cette situation. Nous sommes dans la guerre, c'est nous qui souffrons, à l'Est nous sommes les victimes de tout ceci. Et je me dis que, est-ce que l'échange des opposants avec le président Ndayishimiye ont-ils influencé aussi à ceci? Et je me dis que c'est possible.
Merci beaucoup. Maître Pascal, est-ce que vous pensez, je vous pose cette question, est-ce que vous pensez que le mini-sommet opposition et le président Ndayishimiye à Gitega au Burundi, la rencontre entre Fridolin Mbongo et Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, les deux activités ont eu un impact sur l'attitude aujourd'hui du président de la République qui se veut conciliataire en annonçant ouvertement depuis vendredi dernier l'idée de l'organisation du dialogue national.
Ben, merci messieurs les journalistes. Justement, je pense que c'est là quand même, c'est quelque chose à saluer parce qu'on a vu le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un homme très radical dans ses prises de position et qui, au lendemain de ces rencontres, il fléchisse un peu, ben peut-être il y a de quoi espérer. Mais la question ici que nous aimerions nous poser est posée à tous ces acteurs. Est-ce que ce dialogue, cette fois-ci, ça sera un dialogue sincère? Est-ce que ce dialogue, c'est un dialogue qui se veut être la voie de sortie face à une cruelle, à une légion de crises que connaît le pays, est-ce que ce dialogue sera fait dans l'intérêt du peuple congolais? Est-ce que ce dialogue va être la voie de sortie face à la mauvaise gouvernance qui est devenue une pathologie politique, disons, dont se sert la classe politique dans son ensemble, pour confisquer les pouvoirs du peuple qui est le peuple qui est souverain en vertu de l'article 5 de la Constitution? Est-ce que les recommandations qui sont faites par-ci par-là, notamment ce qu'a dit son éminence le cardinal Fridolin Bongo, qui dans son allocution a dit qu'il voudrait que les Congolais puissent s'asseoir pour se dire en face des vérités? Voilà, et donc il ne suffit pas seulement d'aller au dialogue sans pouvoir réellement analyser les causes profondes de tous les défis auxquels se trouvent confrontés les peuples et y trouver des solutions. Parce qu'ici, nous savons très bien que c'est toujours le mode opératoire des acteurs politiques. Chaque fois qu'ils sont invités à dialoguer, eh bien, la première question qu'ils affichent, c'est, les attentes du peuple, les désidératas du peuple. Ils mettent au devant de la scène l'alibi d'après lesquels, et non, voilà, le peuple est marginalisé, il y a violation des droits de l'homme, il y a tout ceci, il y a la mauvaise gouvernance quand il s'agit des opposants. Mais alors, dans leur même propre piège, dans leur discours, nous lisons, quand ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font du pouvoir qu'ils reçoivent? Donc nous avons une crainte que ça ne soit encore une répétition des événements du passé, parce que finalement la lyre qu'il y a, ou bien le constat qui est amer et douloureux, c'est que tous les acteurs congolais ne sont pas sincères vis-à-vis du peuple, ça je dois dire clairement, parce qu'ils se partagent les gâteaux. Chaque fois qu'ils ont une parcelle d'autorité, ils se battent, maintenant aujourd'hui, ils se font des jeux de ping-pong, mais quand ils viendront, disons, ils auront à avoir un accord, qu'est-ce qu'ils feront de ces pouvoirs qu'ils ont acquis? Les présidents ou les régimes en place peuvent concéder, d'accord. Les opposants peuvent se voir intégrés, d'accord. Les mouvements de belligérance ou insurrectionnels peuvent peut-être déposer les armes, comme ça a été le cas au lendemain du dialogue de Sand City, et disons de Pretoria puis Sand City. On a vu le système 1 plus 4, d'accord. Ça, c'est tout ça, c'est bien. Mais nous, les peuples, nous qui sommes victimes de cette guerre depuis autant d'années, quelles sont les attentes cette fois-ci?
Nous reviendrons sur les attentes dans peu de temps. Voilà. Donc,
pour autant dire que, déjà ma première recommandation avant que vous n'ayez passé la parole, c'est de dire que cette fois-ci, nous attendons de tous ces acteurs, de toutes les parties prenantes à ces dialogues, que ce soit un dialogue sincère,
merci,
un dialogue qui ne puisse pas, en tout cas, leurrer le peuple, qu'on ne puisse pas nous vendre du vent, qu'on puisse nous en sortir des résolutions qui trouvent des solutions adéquuates aux problèmes majeurs que connaît le peuple congolais.
Merci.
Parce que le peuple est victime de la confiscation de sa souveraineté, de son pouvoir. Et nous devons nous dire que nous n'allons plus continuer à accepter. Nous serons dans les rues désormais pour contester tout ce qui ne va pas.
Merci beaucoup. Et voilà. Emmanuel Bengue, avec votre coalition PEPIS, vous avez été depuis toujours derrière l'idée de l'organisation de ce dialogue. Mais à vous cette question, existe-t-il une symbolique entre la date de cette annonce et la date de l'organisation de la marche? Donc, je rappelle que c'est le 17 que nous avions entendu cette idée de l'organisation du dialogue, 5 jours avant une date annoncée pour l'organisation d'une marche pour protester contre l'idée de changement de la constitution à Kinshasa.
Merci.
Il y a un lien entre les deux activités. Parce
Merci
que même
beaucoup,
au lendemain du 17, hier,
ouais,
Mbongo convoque, bon, disons, il invite les opposants avec un message à la clé, reporter la marche, parce que la bonne foi est exprimée par l'autre partie.
Merci beaucoup, cher Expedi Kalou. La coalition PEPIS, qui est dirigée par Madame Elodie Tamuzinda, et qui est la modératrice au niveau national. Coalition PEPIS, pour ceux qui ne l'ont jamais attendu, c'est une plateforme qui regroupe les acteurs sociaux de la République démocratique du Congo et de la diaspora congolaise. Avant de répondre à votre question, la coalition PEPIS est l'une des plateformes qui ont eu à soutenir la CENCO, l'ECC, dans sa démarche de voir les Congolais se réunir autour d'une même table et de parler de la vérité et d'analyser surtout profondément les causes de cette guerre. Et cependant, nous avons eu à publier ou à engager plusieurs déclarations allant dans le sens d'amener surtout le président de la République, parce qu'il est le garant de la nation, de l'amener à écouter l'Église catholique. Et n'est-ce pas que hier, quand l'Église a pris cet engagement, c'est-à-dire la 5OSCC, l'Église n'était pas comprise par plusieurs proches du chef de l'État. L'Église a été même traitée d'être du côté de l'ennemi, s'il faut le dire ainsi, soit diabolisée d'être de l'F-123, être du côté du Rwanda, et tout ça, tous ces discours ont semblé même créer une division au sein de l'Église, surtout au niveau de l'Église catholique. Vous avez vu comment certains prêtres se sont mécomportés dans la province, je crois, du Kasaï. Et tout ça, ça a créé des confusions au niveau de la communauté. Et comme sur le plan sociologique, le peuple congolais croit souvent à l'Église catholique. Et pour nous, l'approchement du chef de l'État auprès de ces deux églises, SCC et Synco, pour nous, ça témoigne déjà une volonté et un engagement politique.
Merci beaucoup.
De voir le chef de l'État chercher donc à résoudre ces problèmes.
Merci.
Cependant, chez nous, on a beaucoup, parce qu'on a suivi les discours de la CENCO après être reçus par le président. Nous avons pensé normalement qu'il y aurait des préalables. Et parce que nous avons la crainte que cela ne puisse être comme une répétition des rencontres et des rencontres qui n'aboutiront à aucune résolution. C'est pourquoi on aurait voulu que le président de la République puisse d'abord s'approcher des institutions de la République. Parce que envisager ce dialogue, c'est beau, mais on ne doit pas nous écarter des institutions préalablement dans ce projet. Parce que nous avons l'Assemblée nationale que nous ne devons pas écarter. Et il y a aussi le Sénat, il y a aussi le gouvernement. Et donc, le président devrait plutôt commencer à partir de là, écouter ces gens, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. C'est vrai, la CENCO ne refuse pas qu'il y a d'ailleurs notre soutien. C'est bon. Mais pour nous éviter de théâtre autour de ça, on aurait voulu que ça soit un processus qui rentre dans le respect de la Constitution. Que ça ne soit pas un processus qu'on va voir comme étant un processus choisi, mais à côté il y a une pression. Que ça ne soit pas perçu comme il s'agit d'une pression que le président de la République a subie et qui lui a amené à rencontrer maintenant l'SCC et Synco. C'est pourquoi on a pensé normalement qu'il allait d'abord respecter dans un premier temps tous les accords déjà signés dans ce cadre. Parce qu'au départ, il y a beaucoup de résolutions, il y a beaucoup d'accords déjà signés. Qui lui demande à quel niveau il doit commencer pour que nous ayons la paix. Et la question que l'on se pose, est-ce que ce rapprochement accepté aujourd'hui vient de mettre fin sur les processus en cours? C'est quel chapitre que nous voulons entamer?
Non mais Emmanuel, nous parlons du dialogue. Vous avez proposé l'organisation du dialogue.
Ouais.
Nous savons que les autres processus existent.
Ouais.
D'ailleurs, vous avez proposé l'organisation du dialogue, sachant qu'il y avait des processus en cours.
Effectivement.
Nous n'ignorons pas qu'il existe, par exemple, le processus de Doha,
ouais,
qui réunit sur une même table,
ouais,
le gouvernement de la République et l'AFSAM 23.
Ouais.
Mais pour ce qui est du dialogue,
oui,
s'il y a des préalables, quels sont les préalables que vous proposez? Vous demandez qu'on... n'associe les institutions de la République, c'est-à-dire l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement. Mais aussi, à quel niveau on doit les associer et pourquoi les associer? Ces institutions ne peuvent pas intervenir via leurs animateurs dans ce dialogue entre Congolais, je ne sais pas, nous reviendrons peut-être un peu plus tard avec...
Oui, normalement, les institutions peuvent...
Mais quelle est votre proposition en ce qui concerne les préalables
La proposition par rapport au préalable, c'est ce que nous disons. Mm-hmm. C'est-à-dire quoi? Si nous parlons des institutions, si nous parlons aussi de la Constitution, parce que normalement, on ne peut pas seulement se limiter à dire que le président a en fait accepté que nous puissions dialoguer. Mm-hmm. Ça doit se manifester par un acte posé par le président de la République.
Quel acte, par exemple?
L'acte, parce que n'est-ce pas que le président de la République agit par ordonnance.
Oui, oui.
Il allait commencer par ça. Où il va maintenant définir, le dialogue va prendre quel format. Où il définit les parties concernées. Parce que hier, on parlait que nous voulons un dialogue qui va associer l'opposition militaire, c'est-à-dire l'opposition armée, l'opposition non armée, la société civile dans toute sa diversité, les femmes, la jeunesse, c'est tout ce qu'on demande.
Pour vous, ce n'est pas le moment de se réjouir attendant la publication de l'ordonnance?
Oui, nous ne pouvons pas se réjouir maintenant qu'il y aura dialogue que le président a accepté.
Merci.
Nous souhaitons au niveau de la coalition PEPIS, à travers les acteurs sociaux qui sont en RDC, qui sont dans la diaspora congolaise, nous ne pouvons pas maintenant dire que le président a accepté. Parce que pour que le président accepte, parce qu'il s'agit d'une institution, il doit les manifester par l'ordonnance.
Merci.
Et c'est là où nous attendons tout ce qui va définir là-dessus. Et c'est pourquoi nous avons voulu, parce que très prochainement nous allons rencontrer la CENCO-SCC, parce que nous avons toujours fait ça, pour lui donner déjà nos idées par rapport à ça. Parce que nous devons éviter...
Revenons sur notre question initiale. Y a-t-il un lien entre la date de l'annonce et la date de l'organisation
de la marche de l'opposition? Effectivement, parce que vous savez que depuis que l'opposition a pris cette initiative de manifester, il y a eu beaucoup de tensions qui se sont remarquées à Kinshasa. Que ce soit du côté des membres de l'Union sacrée, que ce soit du côté des opposants. Et donc, nous pouvons penser qu'il y a déjà... D'ailleurs, c'est ce que moi j'ai évité de dire avant. C'est une pression. Parce que quand déjà l'opposition se prépare à manifester, c'est déjà une pression pour les pouvoirs en place. Et le pouvoir en place doit chercher comment contourner ça. Et vous avez dit, c'est depuis l'annonce que le président de la République, entre guillemets, on aurait appris que même c'est le président qui aurait, n'est-ce pas, appelé le président burundais pour inviter l'opposition et les confessions religieuses et de voir en sorte comment atténuer les tensions à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous pouvons maintenant comprendre avec les enjeux actuels qu'il y a déjà cette pression. Et comme le président sent déjà une pression derrière lui, et c'est pourquoi on voyait déjà cette démarche. Et c'est pourquoi on aurait souhaité, bien qu'il y ait une pression qui ne se limite pas seulement à respecter ou à avoir peur de cette pression. Mais étant garant de la nation, il doit normalement comprendre qu'il s'agit d'un processus soutenu par tous les peuples congolais, notamment les peuples de l'Est touchés par ce problème. Et c'est pourquoi il doit beaucoup nous aider et nous éviter surtout les problèmes. Parce que vous savez, la culture congolaise, surtout dans la capitale, lorsqu'il y a des manifestations, il y a toujours cette culture de réprimer les manifestants. Et l'opposition, je m'excuse, et l'opposition est très motivé pour manifester ça. D'ailleurs, on a lu dans les réseaux sociaux où certains soutiennent qu'il ne s'agira pas de la marche de l'opposition, qu'il s'agira plutôt de la marche du peuple congolais.
Merci.
Et pour vous dire que c'est cette pression qui l'amène à faire ça. Et c'est pourquoi nous les conseillons de ne pas se précipiter, qu'il ait eu le temps de consulter les institutions de la République et ensemble qu'ils définissent les formats qu'il va prendre l'ordonnance qu'il pourrait signer.
Merci.
Mais y aller vite comme ça, nous allons risquer de perdre beaucoup de tête dans notre pays.
Merci.
Parce qu'à Kinshasa, nous savons comment ça se passe.
Merci.
Et c'est
beaucoup.
Pourquoi la coalition PEPIS insiste beaucoup sur d'abord la consultation des institutions de la République avant que le président ne puisse prendre sa signature pour une quelconque ordonnance par rapport à ces dialogues.
Mick Moutiki, nous avons suivi Fridolin Ambongo au sortir de cette audience. Il a signifié, il a utilisé même le terme en disant que c'est un dialogue national. Chemin faisant, les modalités seront clarifiées. Mais il a précisé que ça va réunir les fils et filles de la République démocratique du Congo autour de l'idée de fédérer toutes les tendances. Et dans la foulée, Patrick Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement, a signifié que, selon lui, un dialogue avec des compatriotes jugés complices de l'agression rwandaise reste inconcevable. C'est ce qui s'est dit déjà dans les cercles du pouvoir. Ça pourrait être un dialogue avec des acteurs qui s'opposent à l'agression rwandaise. Avec les pesanteurs d'ordre sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, pour vous, quel pourrait être le format de l'organisation de ce dialogue si, déjà, au sortir de cette rencontre, l'on signifie ouvertement que ça pourrait s'organiser avec les Congolais qui s'opposent à l'agression rwandaise?
Merci, Expedi. Vous ne m'auriez jamais posé une question aussi belle que ça. Merci pour la question. Quand j'ai écouté le cardinal Ambongo, et quand j'ai écouté Mouyaya, je me suis dit, il y avait déjà un clash. À mon sens, parce que Mouyaya veut organiser un dialogue congolais contre le Rwanda. Parce que moi, j'ai un... Bref. Et nous, on attend un dialogue intercongolais pour refaire notre gouvernance, regarder les éléments de notre gouvernance qui nous tirent vers le bas, pour relever la population congolaise, afin que le peuple congolais, dans son entièreté, soit capable d'avoir une résilience face à l'évolution et à la marche du monde.
Mais reste aussi un dialogue qui nous permettrait de trouver une voie de sortie à la crise qui nous oppose au Rwanda.
Je ne peux pas les concevoir comme ça. Et alors, ça serait passé à côté de la plaque. Pourquoi? Nous avons des accords avec le Rwanda signés par le président de la République, à l'issue desquels nous avons un gentleman's agreement, un cadre à partir desquels nous pouvons dealer avec le Rwanda. Et d'ailleurs, le contenu de cet accord, ni moi, ni toi, personne n'est au courant de la quintessence de cette affaire-là.
Mais superficiellement, nous savons que nous allons gérer le parc,
qu'il y aura des... Nous savons quand même...
Sur le plan économique, il y aura des échanges, des contacts.
Et sur le plan sécuritaire, il y a la sempiternelle question de l'œuf et de la poule entre les mesures de défensives rwandaises et la traque des œufs de l'air, mais aussi la présence des troupes rwandaises. Ça, ce sont des questions pour lesquelles il y a des garants, et pas n'importe qui, c'est pas le peuple congolais, ce sont les États-Unis d'Amérique. Non, j'avais dit auparavant sur ces micros qu'on avait mis la charrue avant le bœuf. On devait commencer par là. Le peuple est impliqué dans... Nous avons des mémos, nous avons des conférences de presse, nous avons même des campagnes qu'on a lancées pour dire « Halt, nous allons trop à l'international sans avoir une cohésion au niveau national. » Je l'ai dit plusieurs fois ici. Mais maintenant, on est où? On est à une année d'une signature des accords qu'on a signé avec les États-Unis qui ne portent pas de fruits. On est à une année des accords qu'on a signés avec le Rwanda qui ne portent pas de fruits. Et on s'est allé... Non, la lisibilité de notre diplomatie s'est écrochée de manière aussi flagrante quand Lavrov, se retrouvant à Bujumbura, va dire... Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe, va dire que le M23 serait appuyé
par l'Ukraine, par ricochet, nous qui avons fait les relations internationales, je pense que ce qu'ils ont fait ici, ils comprennent. Ça signifie quoi? Ça signifie que moi, Burundi, je suis allié des Russes, et par ricochet, mon allié Congo aussi est allié des Russes. Mais dans l'entretemps, la relation de cause à effet, dans la situation internationale, l'allié de mon allié, c'est mon allié, l'ami de mon ami, c'est mon ami, l'ennemi de mon ennemi. Toutes ces petites théories des relations internationales, on n'a pas besoin de faire beaucoup de logique. Ça a frustré les salons au niveau international. Alors que notre président est allé se donner entièrement dans les mains des Américains.
Non, il faut comprendre. C'est un gâchis.
C'est un gâchis parce que la lisibilité diplomatique construite pendant plusieurs années et que vous retrouviez après une année que rien ne s'est fait au niveau international, et qu'on trouve que c'est normal. Ça ne se passe pas comme ça en relations internationales. Maintenant, il est situation plus bingine. Hein? C'est retrouvé aussi que nous le disions. Les terres rares pour lesquelles on disait qu'on va donner aux États-Unis, Zimo Ziko Zaming Ziko Rubaya, Nzingine, Ziko Okatanga, dans le mets des Chinois, Nzingine, Ziko. Alors on ne sait pas les exploiter. D'ailleurs, dans le territoire de Mwenga, il y a même une ordonnance tellement il y a un tohu-bohu autour des Chinois, de qui. Et on a dit, bon, moi, c'est tout. Mwenga, à une exploitation minière, parce que ça fait trop des autres. Vous voyez, autour de toutes ces questions, il y a aussi des questions. Nous, les Congolais, expédiés, on pensait que, en tout cas moi, et nous, au niveau du cadre de concertation de la société civile et du consortium qu'on a mis sur pied avec les confessions religieuses ici et les mouvements citoyens, nous, on est plutôt en plein référentiel, écrit un référentiel qui a cette thématique, notamment les éléments qui font en sorte que population yetu, parce qu'il y a que Toambia, assez nous avons tellement signé des accords à l'international qu'il ne reste plus rien. Il y a des réformes à faire chez nous pour nous assurer que le Congolais, on ne peut pas dialoguer pour le Rwanda. On dialogue, par exemple, je vous donne des
mais
cas.
C'est dans le contexte de la guerre, une guerre qui a été menée par l'AFC-M23 avec, comme d'aucuns le disent, même à l'international, les Nations Unies, les États-Unis, et même le président Paul Kagame le reconnaît en qualifiant la présence du Rwanda en RDC comme étant une situation de défense à travers le territoire étranger.
Est-ce que c'est ce que nous allons aller faire dans notre dialogue interne?
D'où ma question. Votre idée, vous comme acteur de la société civile, vous avez proposé l'organisation du dialogue dans ce contexte précis. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on intègre l'aspect sécuritaire, l'aspect de l'agression dans le contenu des échanges qui seront menés dans ce dialogue national? Parce que comme ça a été à Sun City, c'est dans une situation de guerre que les acteurs se sont réunis et ont échangé entre eux pour une voie de sortie qui nous a permis de rester stable ou calme pendant deux décennies.
On a tellement mené nos pères de la foi, on les a tellement malmenés à cause de cette question, que je ne voudrais pas qu'on les piège en leur donnant en main une grenade de goupillet pour dire qu'on cherchait la paix. Moi, je suis quelqu'un qui a été élevé dans la foi et je crois au pouvoir de nos églises à nous amener à la paix. Mais on ne va pas responsabiliser l'Église à amener la population congolaise pour aller contester les accords qu'on a déjà signés avec les pays voisins. Ok? Alors qu'on disait qu'on allait commencer par là.
Dans le dialogue, on ne sait pas si on va aller contester ces accords. Mais on peut échanger.
Non, moi je pense. Je pense.
Des aspects pour la gestion de la crise actuelle.
Réussir un dialogue, c'est réussir l'agenda et le format. L'agenda pour nous, on doit avoir un référentiel. Et ce référentiel, il vous souviendra que nos pères de la foi avaient commencé par voir les pays voisins parce qu'ils avaient constaté que c'était un problème.
Okay.
On leur a dit, non, vous devenez aussi agresseurs comme eux, n'y allez même pas.
Ils ont été affichés aux côtés de Paul Kagame.
Et comme si, ça veut dire, on leur a dit qu'ils n'ont jamais condamné Paul Kagame. Ils n'ont jamais condamné les Rwandais. Ok, moi, Mick, pour être bon avec Félix, j'ai dit, je suis au micro. Bon, président Paul Kagame, vous êtes le diable, vous êtes méchant, vous êtes tout, tous les mouvements.
La guerre s'arrête.
Bon, maintenant, est-ce que, comme je dis ça comme ça, la guerre est arrêtée? Non, on doit quitter l'enfantillage diplomatique et politique. Ici, il est question de nous permettre d'engager une dynamique de réforme.
Voilà, nous nous excusons pour cette coupure d'électricité. Nous revenons vers vous sous groupe électrogène. Mick Mutiki, vous étiez en train de développer votre narratif.
Oui, ça veut dire que, j'ai dit, on ne va pas responsabiliser nos pères de la foi pour venir nous mettre le monde au dos. C'est très dangereux. Et qu'amener toute la population congolaise dans toutes ces démarches, moi, j'ai pensé que le dialogue ici, et puis, est-ce que ce n'est pas parce que ça barde Hakim qu'on s'est dit maintenant, hein, on est, parce qu'avant on disait c'est à 2000 km, hein, et que, non, ça ne doit pas être perçu comme
c'est
ça.
Pour vous, parce qu'il y a peut-être la menace de la
marche du 22. Directement sur le pouvoir à Kinshasa, qu'on pense que c'est, maintenant il faut faire vite, si c'est comme ça. Non, non, Bolamba, Bolia, Tokoyate. Si c'est ça le sens.
Mais on attend que l'ordonnance soit signée par le président de la République pour nous clarifier tout le contour autour de ce dialogue.
Ces services sont en train de nous suivre. Nous n'avons rien lésiné, nous autres, pour qu'il y ait ce dialogue.
Vous avez longtemps demandé ce dialogue. En apprenant l'annonce de l'organisation de ce dialogue, vous devez quand même frotter les mains.
Non, se frotter les mains, ça serait se piéger. On devait être maintenant trop regardant pour que la chose pour laquelle on s'était tellement bâti ne nous soit donnée d'une main et qu'on retire la substance de l'autre main. Nous devons craindre deux choses. Est-ce que vous savez que l'année prochaine, c'est l'année électorale? Nous avons des réformes électorales à faire. On doit en parler. Le mandat du président est à la fin. On doit en parler. On doit parler de la belligérance, de la réforme de notre armée qui semble visiblement toujours être dépassée par les guerres malgré l'expérience de 3 ans de guerre. Je disais, il n'y a pas hier. Les Wazalendo se sont battus à Lubarika avec les FRDC. Et il y a eu 2 morts. Ça veut dire quoi? Il y a des réformes à faire au sein de nos services de sécurité. Il y a des réformes à faire dans la gouvernance. Banzi, c'est 300 000 habitants, mais il est géré par un chef de quartier. Hein? Le chef de quartier n'est même pas un OPJ. Vous voyez toutes ces réformes-là? Nous avons des réformes à faire pour gouverner notre pays. Nous ne savons pas à quoi... Bon, j'ai appris que, vous savez, soyons sérieux, il y a quelques acquis, pardon.
Mais, s'il vous plaît, nous allons atterrir par là. Oui. Mais trouvez-vous pas que l'urgence de toutes les urgences, parce que tous les invités sont revenus, le peuple congolais souffre. Mais trouvez-vous pas que l'urgence de toutes les urgences, ce serait d'abord de résoudre la crise sécuritaire, c'est-à-dire inscrire dans ce dialogue le point relatif à la situation sécuritaire dans la partie est de la République, c'est-à-dire savoir pourquoi l'AFC-M23 a pris les armes. Pourquoi, par exemple, l'AFC-M23 a le soutien du Rwanda? Pourquoi X s'est opposé aux institutions de la République pour ramener d'abord la paix? Bien évidemment, si on inscrivait au chapitre, donc la succession des chapitres dans ce dialogue, commencer par là, et après réfléchir sur d'autres questions, notamment les questions de gouvernance, les questions des réformes du secteur de la sécurité, les réformes électorales, les réformes, par exemple, de la Constitution et tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, je crois à l'unanimité dans ce studio, nous sommes conscients que l'urgence, c'est la résolution de la crise.
Mais la résolution de la crise a des cadres. Il y a un cadre de Washington, et il y a un cadre de Doha aujourd'hui à Montreuil pour résorber ce qui est sécuritaire. Ça veut dire il y a des sujets auxquels moi, Mick, je n'ai pas besoin d'être associé.
Merci.
Mais il y a des sujets. Je vous donne l'exemple. Il y a 8 protocoles. Il y en a 3 qui ont déjà été signés. Le 4e va être signé, les autres, hein, au niveau, dans le corps de l'accord cadre. Il y a question, ce n'est pas que Alishindo doit avoir bonne foi dans nos partenaires et que à que du Valisha, peuple congolais.
Merci beaucoup.
Angali à papa expédie. L'ordre public est tenu par la municipalité. L'ordre public, dont là où il y a la salubrité publique, la tranquillité publique et la sécurité publique. Mais vous imaginez le chef de l'État ananza kufanya salubrité publique mu Kinshasa,
au capital.
Mu capital.
Merci beaucoup.
Et vous pensez que c'est normal? Il faut renforcer la décentralisation pour que les pouvoirs à la base soient à même de juguler petits problèmes de gouvernance, de telle sorte que les sérieux problèmes de diplomatie et de gestion de l'affaire d'État soient tenus par le chef de l'État.
Merci.
Binaleta,
merci beaucoup.
Et vous dites que nous, tout en Zia, Kugombana, na Rwanda, nous sommes dans un pays où on ne détourne qu'en termes de millions. Kame Kingali, 10 000 à Béziba.
Tout à Kourdili, à mon Daki Kachache, je pense qu'il y a Gomba, où on a mané nos millions. Ignace Moupira, donc ça nous permet justement d'entrer dans le vif de ce dialogue. Qu'est-ce qui peut constituer la matière grise de ce dialogue, parce que nous l'entendons de Mick, sachant qu'il existe d'autres cadres, des cadres qui sont censés résoudre la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il est bien évidemment urgent d'organiser les dialogues, mais pour des matières spécifiques. Pour Mick, on écarte l'aspect sécuritaire. Bon, la réforme sécuritaire, elle est partie intégrante, mais on écarte l'aspect de la résolution de la situation de l'est telle qu'elle se présente aujourd'hui, de ce dialogue, pour prioriser d'autres matières. Est-ce que vous êtes de cet avis, considérant par exemple que les dialogues qui ont été organisés auparavant, par exemple le dialogue du temps où vous êtes parti à l'Assemblée nationale, a, je crois, échangé spécifiquement sur l'aspect du contexte sécuritaire et politique de l'époque?
Non. Le dialogue a abouti, celui de 2002 a abouti à un accord global et inclusif. Et nous parlons du dialogue annoncé pour maintenant, nous devons nous mettre d'accord sur l'entendement des concepts. Je ne sais pas ce que signifie garant de la République, garant. Mick Mouti qui fustige le fait que le président de la République s'occupe de la salubrité publique, qui s'occupe de taximènes, des embouteillages, etc. C'est peut-être ça aujourd'hui la compréhension des garants.
Non.
C'est peut-être ça. Je crois que pour une partie des tenants du pouvoir, garant signifie l'homme qui fait tout. Uh-huh. Et vers qui on oriente tous les problèmes pour qu'il soit le seul à apporter toutes les solutions à tout. J'entends ça quand vous ouvrez votre télévision, c'est président de la République, le président de la République doit voir ça. Les joueurs n'ont pas encore voyagé. Mais Pati Béton, mais les joueurs n'ont pas encore voyagé. Les joueurs qui doivent voyager, c'est le président de la République.
Quand il y a l'effondrement d'un pont à Calais.
Les médecins sont en grève et il y a une femme qui a accouché parce que les médecins ne l'ont pas accueilli. Président de la République, vous devez régler ces problèmes-là. Est-ce que nous ne sommes pas à côté de cette compréhension, de la compréhension des garants que nous, le constituant originaire, nous avons donné à ce concept-là? Il y a le concept le peuple souverain. On parle de l'article 5. Chacun le manipule comme il l'entend. Et quand j'ouvre ma télévision, quand je suis les débats à Kinshasa, c'est tout à fait à côté. Quelqu'un a dit, mon ami...
Maître Pascal
a dit qu'on nous a vendu du vent. Vous savez, pour vendre le vent, il faut soigner l'emballage. C'est peut-être possible, hein? Nous sommes dans ces studios, il y a l'air qu'on respire ici, c'est ça le vent. Si vous voulez offrir ça à quelqu'un, comment on va faire, expédier? Il faut savoir dans quel emballage mettre ça. Et on a réussi à nous vendre du vent dans des emballages qu'on appelle, un, balkanisation. On veut balkaniser notre pays. Deuxième emballage, c'est le Rwanda. Si vous ne citez pas le Rwanda, c'est que vous êtes...
diable.
Vous êtes un diable. Et on a vendu un autre. Le peuple d'abord. Vous voyez comment le paquet de vent qu'on a exposé dans cette vitrine-là, je ne sais pas combien ça coûte, mais tout le monde prend ça à peu de frais et on avale. Donc, il y a une espèce de distraction. Pour revenir à votre préoccupation, nous lisons, nous autres, avec des regards derrière, avec trois rétroviseurs, pour regarder un peu d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons.
Ouais.
Le Fridolin Ambongo s'est lavé les mains comme Ponce Pilate. Il a dit, oui, nous remercions, je dois remercier le président de la République, parce qu'il nous permet, il va nous permettre de nous mettre ensemble, hein, la communion des filles et fils de ces pays. Mais enfin, n'importe quel abbé, diacre peut dire ça à l'église. La communion de père, mais comme ça vient de ton éminence, moi je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Il a dit pour l'unité, hein, pour lui il dessine déjà le tableau, pour l'unité. Quand il a dit, oui, l'agression du Rwanda. Il a mis cette incise. Il a dit, oui, l'agression du Rwanda. Nous le savons. Nous le savons. C'est-à-dire, bon, vraiment, il a dit ça pour la forme. C'est-à-dire, il n'a pas beaucoup insisté. C'est ça l'essentiel, mais nous le savons, tout le monde sait ça. Alors, je le dis quand même, parce que tout le monde le dit et tout le monde le sait. Il a parlé de dialogue inclusif, mais s'agissant du contenu, il a dit, nous allons, les conditions, le dialogue va se tenir aux conditions que nous allons élaborer chemin faisant. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire, ils ont parlé d'un dialogue dont ils ne connaissent pas encore ni le format, ni le contenu. Parce que TDR, hein, l'agenda, Mick utilise de gros mots ici. Parfois, moi-même, j'ai besoin, après l'émission, je vais aller sur Google pour essayer de comprendre cette science. Et nous qui n'avons pas fait les relations internationales. Quand on parle de cette inclusion, je crois que pour la plupart des tenants du pouvoir actuel, c'est compris. Les sénateurs, avec ce qui leur reste de patriotisme, moi je dis, je sais de quoi je parle, les députés, ils votent à main levée, les yeux fermés, ils lisent presque plus les projets de loi qu'on leur dépose, etc. D'ailleurs, tous chantent la même chose. La vision, dans la vision du... même ceux qui ne sont pas d'accord pour être tranquilles dans les rues et les ruelles de Kinshasa, ils disent oui, bon, nous aussi, vous savez, etc. On a tapé sur le pauvre sénateur Modeste Batiloukoué, bon, quand il a essayé simplement de douter de quelque chose, ben on a tapé sur lui. Il a été obligé
de demander pardon
et de faire comment on appelle ça, le
rétro-pédalage.
Le dialogue de Sand City a duré 52 jours. Il s'est tenu de février à avril 2002. Pendant ce temps, toutes les troupes qui se faisaient les guerres au Congo étaient toujours au Congo. J'ai entendu, on ne peut pas dialoguer tant que les troupes
sont encore là. On a fait 52 jours, on a signé l'accord de San City, avant de signer l'accord global et inclusif de Pretoria. Dès décembre 2002, les troupes étaient toujours là. Donc pour moi, que les troupes soient là, qu'ils ne soient pas là, les Congolais peuvent se parler. Okay. Justement pour savoir dans quelles conditions ces troupes doivent partir. Parce que vous ne savez pas pourquoi les troupes sont là. Vous allez les chasser, vous savez pourquoi ils sont là. Vous savez pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. On dit que la guerre a une dimension économique. Vous pensez que, je me suis entendu dire dans mes pérégrinations en Europe, en Belgique, à Londres, quelqu'un qui se moquait presque de moi, qui disait, mais le Congo, vous êtes le coffre-fort du monde. Et ce n'est pas vous qui avez placé toutes les richesses là-bas. Non, ce n'est pas vous, vous, Moupira, là, ce n'est pas vous. Ce n'est même pas votre père, ni votre arrière-grand-père. C'est Dieu qui a placé ça pour nous tous. Il a dit, c'est le coffre-fort du monde. Et nous, on disait, notre narratif, quand j'étais encore à la société civile, on parlait de 6 millions de morts. À l'époque, on parlait de 6 millions de morts. Uh-huh. Aujourd'hui, on parle c'est beaucoup. Et un monsieur suffisamment cynique m'a dit, monsieur Moupira, si les coltans dont nous avons besoin, le diamant, etc., les ressources dont nous avons besoin pour construire notre Belgique, notre Europe, etc., se trouve le 6 millionième cadavre, nous allons enjamber tous ces cadavres pour accéder à ces ressources qui sont chez vous et qui sont là pour nous tous. Les Européens vous disent ça. Pendant que nous pleurnichons, tout n'a cessé quand les banques sont fermées, encore que les banques, ce sont leurs banques, papa. Vous avez ce qu'on appelle Mastercard. Vous avez ce qu'on appelle Visa Card. C'est américain. Moi, je ne savais pas que les banques avaient l'intérêt. À l'époque, hein, j'avais une carte de Equity, Procredit, Equity, etc. Et comme les deux banques sont côte à côte là.
La place de la paix.
Oui, place de la paix. On me dit non, mais vous avez de l'argent dans la banque ici, FBN Bank. Mais allez à Equity avec la carte, vous allez sortir. Je suis parti là-bas, j'ai sorti l'argent. Je dis, oh bon, donc toutes ces histoires appartiennent à une même personne. Et donc, c'est leur affaire.
Merci.
J'ai entendu dire, un Muzungu dire, est-ce que vous savez que c'est nous qui vous avons appris que le diamant s'appelle le diamant? Même le nom. Est-ce que vous savez que c'est nous qui vous avons appris que le coltan, c'est ça le coltan?
Et que c'est une pierre.
Est-ce que vous savez que c'est nous qui savons à quoi ça sert?
Merci beaucoup, Ignace.
Est-ce que vous savez que c'est nous qui fixons le prix?
Cela veut dire quoi dans le débat du moment?
Ça signifie quand on dit global et quand on dit inclusif, pour l'entendement de gouvernants auquel veut faire appel mon ami. Il dit non, il faut les institutions, etc. Dans leur entendement, cette inclusion, on appelle ça, moi je crois que c'est une inclusion absorption. C'est-à-dire ces gens-là, quand ils vont venir, comme nous sommes plus nombreux dans les institutions, on va les avaler et leurs prétentions vont s'arrêter là. Ils vont nous donner un peu le temps pendant 2 jours de respirer encore, de bouffer un peu et de préparer 2028. Dans l'entendement des autres, c'est une inclusion à port. C'est-à-dire nous venons avec nos idées et nous sommes certains qu'on va aussi nous écouter. Je ne dis pas que le gouvernement a totalement tort, mais je ne dis pas que le gouvernement a totalement raison. Mais il y a beaucoup de tâtonnements là-bas. Et il y a ce que j'ai l'habitude d'appeler les entrepreneurs de conflits, hein, les gens qui ne vivent que quand il y a des problèmes. Ouais. Ceux qui sont à côté du président Tshisekedi d'aujourd'hui et qui viennent du RCD Goma, je ne vais pas les citer, quand les Rwandais et les Ougandais se sont battus à Kisangani, ils sont allés au RCD KML chez Mboussa. Après, ils se sont retrouvés, après San City, à côté de Kabila. Et aujourd'hui, ce sont les premiers, ils rivalisent d'ardeur pour diaboliser Kabila. Et quand j'entends quelqu'un dire, je cite Lambert-Mende, je dis, on est où là? Son français là, son français ne coûtait que ce que
Kabila fixait comme prix de son français. En fait, son existence est liée à truc. Donc, il y a nous attendons une inclusion. Une inclusion sincère. Ouais. Ça veut pas de sincérité. Ouais. Je ne suis pas de ceux qui jettent, comment on dit ça, ceux qui jettent l'opprobre sur l'homme congolais. Non. Il y a des gens sérieux dans ce pays. Il y a encore des gens sérieux dans ce pays. Il y a des politiciens sérieux dans ce pays. Sinon, Lumumba n'aurait pas que des noms des avenues comme héritage. Montrez-moi son building. Il a construit quoi à Kinshasa?
Le contenu.
Qu'est-ce qu'il a légué à ses enfants?
Le contenu. Quel peut être le contenu, justement? Nous revenons sur ça. Le contenu de ce dialogue, disons le terme des références, en attendant qu'il soit clarifié, chemin faisant, comme le cardinal l'a dit, et comme les institutions de la République, via le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya l'a dit, bientôt, le président de la République va signer une ordonnance qui va nous fixer un peu...
Le premier point, c'est le retour de la paix.
Okay.
Et la paix, c'est l'Est principalement. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a les Mombondo aussi à l'ouest. Uh-huh. Il ne faut pas ignorer qu'il y a les ZDF qui est une nébuleuse. On ne sait pas qui manipule ça. Les ZDF ne sont pas seulement à Nitour, ils sont à Beni. Beni, c'est Grand Nord. Ouais. Ils sont à Butembo, ils sont dans Bounia, à Nitour. Donc le premier agenda... Dans, comment vous avez
l'agenda appelé social.
Ça agenda social.
Le retour de la paix, d'une paix durable. Le deuxième aspect, c'est la gouvernance. La gouvernance qui est mise en mal, je ne sais pas comment on peut applaudir des choses qui se passent à Kinshasa et dire, d'ailleurs, mais nous on ne vole même pas, mais Kabila a pillé ce pays. Non, il dit, nous on ne vole même pas, mais Kabila a pillé ce pays. Vous êtes venu changer ce que Kabila a fait. Arrêtez de voler, c'est tout ce qu'on vous demande. Troisième agenda, les aspects de cohabitation avec les voisins. C'est ce que j'appelle la dimension régionale de la crise. La crise a une dimension régionale.
Okay.
Il n'y a pas de conflit entre les Rwandais et les Congolais. Allez à la frontière ici, vous allez demander à la maman qui va chercher la tomate, les oignons. J'ai même vu une grosse mandarine comme ça. J'ai dit, pendant la saison, cette mandarine, il y a Kabambi. On dit, non, ça vient du Rwanda. Je dis, donc les mandarines viennent quand même du Rwanda. Donc il n'y a pas de conflit entre nos mandarines et les mandarines du Rwanda. Il y a seulement des aspects mal gérés de nos relations entre États avec les intérêts. Parce qu'on dit, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des ennemis.
Okay.
Si nous relisons, je vais atterrir par là, si nous relisons les accords, nous allons trouver que c'est le président Tshisekedi qui a signé les accords pour que Rwandair exploite l'espace aérien congolais. Mm-hmm. Avant lui, ça n'existait pas. Et quand il a décidé de mettre fin, ça a énervé quelqu'un. Moi, je ne sais pas qui ça a énervé. Je ne sais pas qui ça a énervé. C'est lui qui a signé, ce n'est pas un secret, les accords pour que l'or de Sakima soit raffiné au Rwanda, à Kigali. Je ne sais pas si les gens ont lu ça. Avant lui, il n'y avait pas ces accords-là. Enfin, dites-moi si Kabila avait signé quelque chose de semblable. Alors, vous signez, Nauna Signou, là. Vous allez énerver l'autre. Bon, moi, maintenant, c'est que vous m'avez refusé de prendre. Hein. Mm-hmm. Je vais aller prendre moi-même. Vous voyez? Par quel moyen? Mesures défensives. Ouais. Ce que j'ai dit ici, m'engage, je crois que c'est suffisamment grave. C'est parmi les raisons, les causes économiques de la guerre. Donc, les aspects politiques, les aspects sécuritaires, uh-huh, en priorité, les aspects politiques de gouvernance à Kinshasa,
en deuxième lieu,
les questions de relations avec nos voisins. Nous devons les gérer. Voilà pourquoi il existe l'accord cadre d'Addis Abeba. Voilà pourquoi il existe la CIRGL. Uh-huh. Tout ça, c'était pour essayer d'apporter des solutions à tout ce qui pourrait énerver les voisins et nous énerver non plus. Mais ces accords, il y a des dimensions qui existent. Même la CEPGL existe toujours. On n'a jamais fermé la route
Kamembe Bugarama au Congolais. Même au plus fort de la guerre. On n'a jamais. Je vois encore les drapeaux ici, les trois drapeaux, Burundi, Rwanda, Congo, flotter ici à Nyawera ici. Le bureau de la Sinalak, il n'y a personne qui a agressé ce bureau-là. Uh-huh. On n'a jamais coupé l'électricité, même quand les balles sifflent. Donc, il y a l'essentiel qu'on peut préserver. Il faut savoir gérer, enfin, parce que ça, c'est le format. Uh-huh. Il faut savoir gérer que deviennent nos... Bon, vaillants, Wazalendo.
Merci, merci.
Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans tout ça?
Merci. Voilà, Augustin, les participants pour vous. Bon. On sent déjà que, par exemple, via le porte-parole, qu'on est sur le chemin. On attend bien évidemment l'ordonnance pour savoir un peu comment ce dialogue pourrait être organisé. Mais on est vers un chemin où les échanges peuvent avoir lieu sans, par exemple, l'AFCM 23. C'est le sous-entendu du narratif du porte-parole du gouvernement. Parce que, à l'entendre parler, ce sera un dialogue mixé, opposé catégoriquement d'entrée déjà sa prise de parole.
Un monologue
entre Congolais, quoi.
Donc, merci, Expedi, mais l'effort que je dois faire, c'est de ne pas faire décipitation. Pour me mettre en train de réfléchir si ce qui va être dit, si ce qui sera inclus dans les termes de référence. Uh-huh. Je pense que lorsqu'on analyse, ce serait un biais. Alors, mais c'est que je reviens quand même sur certains aspects, quelques petits aspects qui ont été évoqués ici. C'est pas très sincère de réduire quand même la convocation du dialogue à l'organisation d'une marche. Je ne pense pas. C'est trop réductionniste. Étant entendu que quand j'étais en train de suivre Emmanuel Benguéhia, ils ont dit qu'ils ont travaillé sur la proposition de la marche depuis longtemps. Et on a suivi les débats autour de ça, c'est que il y avait toujours des discussions autour. Mais simplement, à un moment donné, il y avait le problème du format. Par exemple, la constitution de... l'équipe des confessions religieuses, je vis au sortir de l'audience quand même que c'était déjà une équipe élargie. Au début, c'était
SCC-5O.
On a vu des églises de réveil. Bon, je ne connais pas les noms, mais je vis quand même que c'était élargi.
Ils ont prononcé en faveur du projet du changement de la constitution.
Oui. Parce que dans les temps...
On peut dire que c'est une confession religieuse, tendance, pouvoir, non. Et des confessions religieuses, tendance, opposition, qui ont constitué un bloc.
J'ai trouvé que quand même, au niveau de la constitution de l'équipe, de médiation, je trouve comme...
Il y a de l'équilibre.
Pas équilibre, je trouve qu'il y a eu élargissement.
Okay.
C'est déjà un élément. Donc pour dire, et je l'ai dit qu'entre hier et aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. Mm-hmm. Nous devons nous faire attention. D'ailleurs, l'aîné Excellence Mopira connaît très bien que ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, souvent c'est plus grand que ce qui se dit. Toujours en des situations comme celle-ci, il y a beaucoup de choses qui se font en silence. Il y a toujours des contacts. Même lorsqu'on pense qu'il n'y a pas de négociation, il y en a toujours. Mais des négociations qui ne sont pas officiel. Il y a toujours des contacts indirects. Deuxième élément que je voudrais indiquer, c'est de dire, il est possible aussi de se débarrasser d'une infrastructure mentale pessimiste. Vous avez demandé les dialogues. On demande les dialogues, on est déjà sur le point de l'annoncer, d'ailleurs c'est déjà annoncé. On commence déjà à se poser des questions, est-ce que je serai pris en compte, est-ce que... Non. Restons quand même aussi optimistes et dire, attendons voir quel est le format qui va être défini, les termes de référence, ainsi de suite.
Parce qu'on sent quand même qu'il y a eu une avancée.
Oui, oui, restons.
Hier, on s'opposait catégoriquement à ce dialogue, mais depuis vendredi, l'idée du dialogue...
L'idée... Donc, on comprend que... Je l'ai dit que c'est déjà, pour moi, c'est une évolution en termes de stratégie de la gestion de crise. Ah. Et je trouve que les positions des uns et des autres sont déjà ont évolué. Parce que le cardinal Ambongo que j'ai suivi il y a 2 mois, ce n'est pas forcément le même que j'ai suivi. Le président de la République que j'ai suivi il y a... J'espère bientôt que Emmanuel, que j'ai suivi aujourd'hui, je le suivrai autrement. Et Mike Mouti qui va aussi évoluer, ainsi de suite. Donc, c'est des questions comme ça, on ne doit pas rester figé. Deuxième élément, pour revenir à votre question, vous me demandez, mais qui seront les participants?
On peut proposer, bon.
Moi je me dis, par exemple, pour moi, c'est un cadre approprié, les dialogues, parce que ça va permettre finalement de définir qui sont les acteurs qui doivent. Déjà, le conflit est là. À partir de là, l'équipe de la médiation, c'est des techniciens. Ils savent qui contacter. Ils seront en mesure de définir ou de nommer les acteurs directs et indirects au conflit. Et à partir de là, ils seront les localiser et les inviter. C'est pas bon, c'est nous, notre rôle c'est analyser. Mais il y a des techniciens qui vont travailler sur ça. Qui sait qui avait qui et qui ne l'est pas, ainsi de suite. Je pense également en termes du contenu. De quelle matière on va parler? Parce que Mika a essayé de discuter de cela. Effectivement, il y a des positions de différents acteurs qui sont souvent affichées. Mais faisons attention, derrière ces positions, il y a des intérêts. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut creuser, savoir si l'AFCM 23 a pris les armes, mais quels sont les intérêts qu'il est en train de défendre. Et c'est à ce niveau-là que les discussions, c'est autour de ça qu'on peut mener des discussions.
Merci beaucoup.
Effectivement, il y a d'autres processus. L'aîné et Ignace, il est aussi les dialogues qu'on va convoquer. Nous sommes impatients de voir les formats, mais pourra également se servir des processus en termes de référence, des processus passés. Ce n'est pas le premier dialogue. Il y en a eu à Sand City. Il y a eu un dialogue également après de la cité de l'Union africaine, que d'autres appelaient dialogue de Kantiachi. Ça dépendait de où on se trouvait. Et donc, tout ça, c'est des questions qu'on va mobiliser. Et moi, je crois au génie congolais. Et puis, les pères de la foi, comme Mick a dit, c'est des gens qui sont assis à un moment donné. Ils ne sont pas pressés, ils réfléchissent, ils ne sont pas épidermiques. Je crois que l'occasion nous est donnée de rester très attentifs.
Faut
de
saisir
voir,
la balle au bon.
Saisir la balle au bon. Et en tout cas, je reviens à ce que je dis. S'il vous plaît, il est possible de nous débarrasser de l'infrastructure mentale pessimiste. Et pour dire que finalement, il est possible qu'à l'issue de ces dialogues, on dresse toutes les questions, tous les problèmes liés internes, hein, parce que je suis vu qu'il y a la question maintenant, c'est maintenant comment on implique, comment on bâtit la confiance au niveau interne entre les différents acteurs. Je trouve qu'il y a un autre processus qui est à Washington, il y a un autre processus qui est à Doha. Je crois que la somme de tous ces processus-là pourrait nous amener à la paix.
Merci, Maître
oui.
Roland.
Si c'est bien géré, bien évidemment.
Pour que ce dialogue aboutisse à des conclusions qui seront satisfaisantes.
Merci bien. Il y a lueur d'espoir déjà avec cette annonce. Ce n'est pas vraiment une chose à négliger. Moi, je peux proposer en tout cas des éléments. Premièrement, il faut y aller de bonne foi. De bonne foi pourquoi? Donc, la partie AFCM 23 doit être prête à y aller pour ne pas encore revenir demain nous troubler. Y aller de bonne foi et dire cette fois-ci nous voulons la paix qui est durable. Pour les camps de notre gouvernement, parce que cette fois-ci le gouvernement qui a accepté, n'est-ce pas, de dialoguer avec CSR qui traitait des pantins, cette fois, le gouvernement s'y doit y aller, en tout cas, en toute conscience tranquille. Y aller, sachant qu'ils doivent être aussi flexibles à certains éléments qu'ils ont déjà, n'est-ce pas, planifiés, comme les changements de la Constitution, comme les engagements non respectés. Le gouvernement doit être, en tout cas, flexible, n'est-ce pas, à cela. Deuxième élément, si jamais le dialogue est organisé, je proposerai que cette fois-ci, on puisse inviter les fils et filles de l'Est qui sont directement touchés parce que nous sommes les victimes. On ne va pas parler des retours de la paix à l'Est sans pour autant consulter effectivement les victimes
directes de la crise.
Mmh. La société civile, la jeunesse et toutes les parties qui peuvent, n'est-ce pas, prendre part à ces dialogues, enfin, en tout cas, d'extirper cette fois-ci l'insécurité et tout ce que nous avons. Parce que déjà, nous sommes à Bukavu, les banques ne fonctionnent pas. Et bien que je vois quelques agents cash express qui se démènent pour, n'est-ce pas, aider les gens, je vois un monsieur qui s'appelle Gilbert qui est là-bas chez Marie-Reine, qui aide en tout cas tous les retraités ici dans la ville de Bukavu. Tous les retraités parce qu'ils sont coincés, ils ne savent plus où aller. Au moins, c'est ce monsieur-là. Je vois tous les retraités s'orienter là-bas et ils font facilement lors des virements. La banque vire dans les comptes de ces messieurs pour qu'en fait lui aussi puisse servir, n'est-ce pas, les agents. Donc voilà un peu expliqué.
Merci. Maître Pascal, vous également, que proposez-vous pour un aboutissement de ce processus?
Voilà, merci messieurs les journalistes. Tout ce que nous voulons, c'est que nous ne voulons pas d'un dialogue qui puisse, n'est-ce pas, déboucher ou avoir pour ici le partage du pouvoir entre les parties prenantes ou les acteurs. Mais nous voulons d'un dialogue qui puisse mettre au centre des débats les questions vraiment qui font objet des défis, des problèmes majeurs auxquels le peuple s'est toujours confronté, et que les acteurs sachent qu'ils sont comme des mandatés ou des mandataires du peuple, et qu'ils puissent nous venir avec des solutions adéquates et afférentes. En cela, nous pensons que, comme l'aîné de son excellence Moupira l'a dit, nous prenons la paix. Et donc, si j'épuise un peu dans l'encyclique papale fait le pape Jean XXIII, dans son encyclique intitulée Pacem in Terris, qui veut dire paix sur terre, il dit que la paix est donc est la chose à laquelle donc tous les êtres humains aspirent ardemment, et que tout le monde doit concourir à ce qu'il y ait restauration de la paix, parce que sans cette paix, sans la paix, rien ne peut, disons, se réaliser. Et donc, nous sommes dans un contexte de guerre, des conflits récurrents, et donc de la présence des groupes armés, des milices, des belligérances, tout ce qu'il y a au Congo, ça a déchiré, si bien que même les privés, il n'y a rien qui puisse marcher dans un environnement où il y a l'absence de la paix. C'est pourquoi nous prenons que, et tous s'accordent sur les retours de la paix, au-delà de ça, les rétablissements de l'autorité de l'État, l'amélioration des conditions sociales des Congolais, parce qu'il y a cela, disons la bonne gouvernance. J'ai ici dit dans mes interventions antérieures que je qualifie la mauvaise gouvernance d'une pathologie politique par laquelle les gouvernants ont érigé un système mafieux pour confisquer la volonté souveraine du peuple. Et donc, dans ce contexte, lorsque quelqu'un se trouve être mandaté par, disons, le peuple congolais qui est souverain, et que par la suite, il ne parvienne pas à faire une redevabilité en termes des résultats de ce que le peuple attend de lui, celui-là, quelle raison y a-t-il qu'il puisse aller représenter le peuple? Donc nous insistons sur la conscience, la question de la conscience nationale. Parce que nous avons la tendance de croire que, avec les pratiques qu'il y a, la classe dirigeante a tendance à confisquer le pouvoir et à personnaliser le pouvoir, et dans ce contexte-là, le peuple ne se retrouve pas. Voyez-vous le taux de chômage de la jeunesse? Voyez-vous, disons, les victimes des guerres qu'il y a ici? Est-ce que le pouvoir y pense? Voyez-vous, tout ce qu'on connaît comme perturbation, dysfonctionnement des institutions, c'est parce qu'il n'y a pas un esprit des hommes d'État. Nous n'en avons pas.
Merci.
S'il y en a, ils sont trop énormes.
Merci, donc, Maître Pascal.
Nous disons, et pour chiter, nous disons que nous avons trop attendu, nous avons trop écouté, mais aujourd'hui, nous allons sortir du cercle, disons,
de l'idéalisme pour entrer dans le cercle du pragmatisme et du réalisme. Et que nos dirigeants sachent que, et tous les acteurs à tous les niveaux sachent que, ils ne sont pas en face d'un peuple deep, mais ils sont en face d'un peuple, en tout cas intelligent, d'un peuple éclairé.
Merci.
Et qui ne voudrait plus encore avoir, disons, du vent, qu'on ne puisse pas le vent du vent.
Des sacs de vent. Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel, vous également, quelle est votre proposition?
Merci beaucoup. Au sorti de ce message du président de la République que nous avons jugé, d'ailleurs je voulais répondre à mon grand frère Augustin, qu'on se connaît très bien avec lui. Nous n'avons pas réduit la volonté du chef de l'État en s'approchant de chef des églises. Nous n'avons pas réduit cette volonté. Plutôt, nous avons soutenu ça parce qu'il s'agit d'une bonne volonté que nous pouvons interpréter déjà comme une volonté politique de rechercher la paix dans notre pays. Et donc ça, nous n'avons pas réduit comme étant une pression seulement politique, mais nous l'avons bien souligné, c'était dans les conditionnels que ça serait interprété comme étant une pression, vu que les opposants des hypothèses. Quoi. Et donc c'était dans ce sens-là. Maintenant, par rapport aux propositions que nous avons autour de cette bonne volonté du chef de l'État de voir les Congolais se redire, comme c'était le vendredi, hier samedi, la coalition PEPIS a rendu publique une déclaration. Et dans cette déclaration, nous avons souligné cinq grandes observations sur lesquelles on souhaiterait
nous
voir.
Pas tout le temps, donc,
nous n'avons pas tout le temps, il y a quelques éléments seulement. Et donc, ici, nous avons souligné qu'il y ait d'abord les objectifs, c'est-à-dire les cadres juridiques, les modalités d'organisation, les critères de participation. Et les garanties d'impartialité doivent être clairement établies avant toute adhésion des parties prenantes. Ça, c'est de un. De deux, nous avons souhaité qu'il y ait un dialogue national ne peut être crédible que s'il associe sans exclusion l'ensemble des forces vives de la nation, les institutions de la République, les acteurs politiques, sociétés civiles, organisations confessionnelles, femmes, jeunes, autorités traditionnelles, secteur privé, ainsi que les Congolais de la diaspora. Quatrièmement, nous avons souhaité que les populations congolaises, particulièrement celles des zones affectées par les conflits, donc attendent des solutions concrètes. Donc après des années de violences, de déplacements forcés et de graves violations des droits humains, donc le pays ne peut plus se satisfaire des dialogues sans effet pratique. Cinquièmement, nous avons souhaité qu'il y ait les engagements pris dans le cadre de différentes initiatives nationales, régionales et internationales doivent déboucher sur des résultats mesurables. C'est-à-dire, la paix ne se construit pas à travers des annonces successives, mais par la mise en œuvre effective des accords conclus.
Merci beaucoup.
Et c'est à ce niveau où nous avons
vos propositions surtout, également pour terminer cette partie de l'émission. Donc, vos propositions. Merci beaucoup.
Je n'ai pas,
compris tout le temps. Merci.
Qu'on avait
merci beaucoup pour votre intervention.
Ouais.
Oui. Ma proposition d'abord, c'est de bâtir sur les acquis. Mm-hmm. Quels sont les acquis que nous avions? Nous avions une République démocratique du Congo avec 2 345 510 km². Ça, c'est le premier de fondamental. Comment on y arrive? Deuxième chose, nous avions notre cycle électoral qui était régulier. Nous avons une gouvernance démocratique qui intégrait un cycle électoral régulier. Troisième chose, nous avons une loi, un code minier qui favorise la RDC. On doit consolider ces trois acquis. Et ça, je l'ai dit, le régime qui est passé avant 2018, il a fait beaucoup de dégâts, oui, il a fait quoi, mais au moins ces trois acquis, on les avait. Mmh. Alors, pour ce qui concerne la matière va nous aider d'abord à ressaisir ces trois acquis en termes d'agenda. On saura comment les aménager, mais tout qui pas quoi saisir les trois acquis, tout à quoi tout les avancer. Deuxième chose par rapport au format, j'ai pris nos pères de la foi. S'ils ne veulent pas être piégés,
ils doivent réussir une tripartite avant toute convocation. Une tripartite, bakikishe kama, mbele I dialogue inaanza. Kabila, Joseph, ancien président, Félix Antoine Tshisekedi, actuel président, na Corneille Nanga. À la limite, banezo ongeza ko kamere. Djou, d'il y a 2018, il y a arrangement particulier. Ils ont signé un arrangement particulier. Yenye li tout géré, na se il y a arrangement particulier, li koroganaka, na njobi tu bika arrivika. Bale batu, baikale kwanza, basikilizane tout a dialogue aye. Ya tatu, tout si comparé y dialogue, là j'entre dans le lieu où se pourrait se tenir le dialogue. Tout si confondre, nani dialogue il y a kwanza tu fanyaka, conférence nationale souveraine. Hakuna parti ya inche ni likuwa na kamatika. Tout si confondre, na dialogue ya Senko na nani na Union africaine hakuna parti ya nchi ilikuwa na kamatika hakukua une force à l'extérieur mais njo mana bitu bilifanyikia Kinshasa mais ça hii nous devons avoir la garantie de neutralité ya garant le chef de l'état ne saurait être garant d'un processus de paix pour lequel lui-même il est parti au conflit. Tout fanyé dialogue inje ya inchi, bale batu batatu bakisha ongea, na njo tout a fixé format na agenda. Ka tout fait ville, ba kuwa ma kanisa etu, biko mou piège génial tout a reza jitosha.
Merci beaucoup, Ignace. Je reviens sur ça. Vous êtes pour la tripartite ou une tripartite composée autrement pour clôturer cette émission en fait.
Non, si on met
une autre question pertinente, oui. Quelle sera la place du processus de Doha et des autres initiatives de paix, considérant que le dialogue est organisé et le dialogue doit traiter également de la question
de la paix. Je commence par la deuxième question avant de parler de la tripartite.
Un peu de mots bien évidemment.
Depuis 1999, quand je relis l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. Quand j'ai relu l'accord global et inclusif, quand j'ai relu l'accord signé avec le CNDP en 2009,
le 23 mars 2009,
quand je relis l'accord de Doha, quand je relis l'accord cadre de Doha ou l'accord cadre de Montreux, quand je relis les accords entre le Rwanda et la RDC, quand je relis les textes de la CIRGEL et quand je relis l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a toujours une phrase qui privilégie le dialogue entre les filles et fils du Congo. Donc je ne partage pas le point de vue de ceux qui disent pourquoi un énième dialogue. Bon alors, qu'est-ce que vous proposez à la place? Parce que l'armée, je l'ai dit, a échoué, n'a pas réussi à. Il a contenu peut-être les avancées, hein, comme on dit. Alors, s'agissant de la tripartite, elle est exclusive. On peut partir de la tripartite pour élargir.
C'est ça l'idée.
Vous avez apprécié le. J'allais dire gonflement, mais vous avez parlé d'élargissement. L'abondance de gens ne nuit pas. Mais il ne faut pas laisser certaines composantes. Sur le trottoir ou au bord de la route. Sand City a réuni tous les représentants de tous les protagonistes, y compris les Maï Maï.
Et la société civile.
Y compris, oui, la société civile est une composante importante qu'on ne peut pas ignorer. Moi, je parle de ce que deviendront nos.
Wazalendo.
Parce que vous savez, quand on nous met sous embargo, s'agissant des ventes d'armes, ce n'est pas les armes que détiennent les armées officielles, comme les FARDC. Ce sont les armes-là qui échappent au contrôle, mais qui sont vendues par les marchands d'armes, qui se recrutent dans toutes les armées, qui viennent notamment vendre. Et oui, là, nous sommes en train de parler du format, il faut les mesures, comment on appelle ça, les mesures de décrispation.
Pourquoi il y a des gens qui croupissent en prison quand vous parlez de la paix, dialogue? Que fait le pauvre Nani là?
Isumbicho.
Mon frère Isumbicho. Que fait le
Kaminzelo.
L'inoffensif l'ancien président de FCC là?
Ramazan Shadari.
L'autre.
Minaku.
Que fait l'inoffensif Minaku? Je dis innocent. Il ne peut pas faire mal à une mouche. Qu'est-ce qu'il fait en prison?
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que l'autre fait? Bon, les condamnations. Ouais,
les mesures de décrispation politique pour favoriser le dialogue.
Les mesures de confiance.
Merci beaucoup.
Les mesures de décrispation. Il faut qu'elles accompagnent le démarrage de cette.
Merci beaucoup à vous, très chers invités. Exactement 10h25. Par ici prend fin Paix Développement de ce jour. Merci à Augustin Moudekereza. Merci à Maître Roland Batirongo, Mick Moutiki. Merci Maître Pascal Mouniragi. Merci à Emmanuel Benguea et à Ignace Moupira pour les interventions riches dans l'émission de ce jour. Merci surtout à vous, très chers auditeurs, pour l'attention soutenue. Jean-Claude Daguet a assuré la mise en onde. Bon dimanche chez vous. Au revoir.